Bonsoir, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Papon, qui est professeur honoraire de physique thermique à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle à Paris, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages par rapport à la thématique de l'énergie, et notamment son dernier, 2050, Quelle énergie pour nos enfants ? Donc, comme le dit le titre, Monsieur Papon donc, va nous dresser un bilan un petit peu de l'énergie dans le monde, et puis quelles sont les perspectives pour le futur. Et nous avons également le plaisir ce soir d'avoir la présence de la librairie La Bruyère Vagabonde. Donc vous pourrez, suite à la conférence de Monsieur Papon, vous faire dédicacer son ouvrage si vous le souhaitez, et voir également le stand de la librairie. Voilà, donc Monsieur Papon va prendre la parole, ensuite vous pourrez poser toutes vos questions.
Merci. Donc d'abord, merci pour votre invitation ce soir à l'espace Pierre Mendès France. C'est avec plaisir que je reviens de temps en temps à Poitiers. Alors, 2050, quelles énergies pour nos enfants ? Je précise que ce n'est pas un livre pour enfants, il est tout à fait correct, hein, mais je veux dire, ce n'est pas un livre pour enfants, mais je fais de la prospective sur les questions énergétiques à l'horizon 2050. Hein, je veux dire comment je fais, puis j'ai mis un sous-titre vers une transition énergétique. Des ruptures sont-elles possibles ? Autrement dit, je vais m'intéresser à des ruptures scientifiques, techniques, économiques ou sociales éventuelles. Bon. Alors, quelques mots d'introduction historique. Hein. Je ne suis pas historien, ni même historien des sciences, mais je pense que c'est bien de resituer ces questions dans une perspective historique sans remonter à l'Antiquité. Bon. Alors, l'énergie, on en parle souvent, elle est essentielle à la vie biologique, économique, sociale, etc. Mais elle est devenue un problème mondial, disons géopolitique, à peu près depuis un siècle, pratiquement un siècle. En effet, c'est pendant la guerre de 14, qui était la première guerre mondiale, et la première guerre mécanisée avec des automobiles, des camions, puis à partir de 1916, des chars, des avions, etc. Il fallait de l'essence pour alimenter toute cette quincaillerie, si je puis dire, pour tous les belligérants, à l'ouest comme à l'est. Et les alliés, France, Angleterre, puis les États-Unis, commençaient à s'inquiéter au tournant de la guerre en 1917. Clémenceau est devenu président du Conseil en 1917. Il connaissait parfaitement la situation. Il envoie un télégramme diplomatique à Wilson. Les Américains étaient entrés en guerre en 1917. Il dit à peu près ceci. « Envoyez-nous de l'essence. » Qui, écrit-il, sera aussi précieuse que le sang de nos soldats pour la victoire finale. Il fallait l'écrire. Les alliés, France, Angleterre, États-Unis, gagnent la guerre. Les Américains avaient envoyé des tankers. Et puis, en 1920, l'Angleterre et la France se partagent le Moyen-Orient, enfin les dépouilles de l'Empire ottoman, en particulier l'Irak, que s'attribuent les Anglais, parce qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'il y avait du pétrole. D'où, disons, un aspect des âges géopolitiques hein, qui se poursuit jusqu'à nos jours. Bon, je vais vite. Hiroshima, 6 août 45, la ville est rasée en quelques minutes par une bombe atomique, 140 000 morts. Nagasaki, trois jours après, l'énergie nucléaire fait son entrée, je dirais, fracassante sur la scène mondiale. Quelques mois après, à peine, octobre 45, la France réagit en créant le commissariat à l'énergie atomique avec l'arrière-pensée de développer l'énergie nucléaire et puis aussi la bombe atomique. Bon. 30 ans après, encore, 73, premier choc pétrolier, les pays producteurs de pétrole du Golfe augmentent le prix du baril, multiplient par 2 ou 3 en quelques semaines. Qui plus est, les pays arabes, du moins certains d'entre eux, décrètent un embargo pétrolier à l'encontre d'un certain nombre de pays occidentaux. La France réagit, premier programme nucléaire français. Vous avez une maquette, je ne sais pas si c'est à cet étage-ci, d'EDF, d'une des centrales, ça va être celle de Civaux probablement. Bon, alors aujourd'hui, il y a des nouvelles contraintes géopolitiques. Oui, toujours, on parle toujours du Moyen-Orient, de la région de Mossoul, hein, où il y avait du pétrole, etc. Mais il y a des nouvelles contraintes, en particulier le climat, et je vais venir dans un instant. Bon, alors pourquoi écrire un nouveau livre sur l'énergie ? Il y en avait une quantité, il y en a un peu moins maintenant après la COP21. Le mien est paru en avril. Bon, ce que j'ai voulu, c'est montrer que l'énergie est devenue une question globale. Géopolitique, j'en ai un peu parlé. Scientifique, technique, je vais en parler. Socio-économique. Et que je l'ai mis tout ça en perspective. J'ai identifié des défis je veux dire lesquels, techniques, économiques, etc., et des leviers pour agir. Et puis, ma méthode, je fais de la prospective, c'est-à-dire que je ne fais pas de prévision, mais je me dis, en 2050, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel chemin pourrions-nous prendre pour faire cette transition énergétique? Est-ce qu'il n'y a pas des verrous, c'est-à-dire des obstacles scientifiques, techniques, qu'il faut faire sauter pour aller de l'avant? Est-ce que des ruptures seraient possibles, techniques, scientifiques? Et puis aussi, peut-on utiliser des innovations sociales pour aller sur la voie de la transition énergétique? Je fais aussi, je développe un peu une vision historique, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que j'essaye de tirer les leçons de l'histoire, l'histoire de l'énergie. Ce qu'on appelle des uchronies, je dirais, ce que ça veut dire. Et puis je fais aussi un peu de science et de politique fiction. 2050, qu'est-ce qui pourrait se passer si? Bon. Et j'en tire des leçons. Alors, pourquoi, là, je ne vais pas détailler les choses, quelques leçons de l'histoire. Là, c'est un tableau, c'est une photo, pas d'époque, évidemment, c'est une photo du peintre Bruegel, flamand, du début du XVIe siècle. On voit un paysage d'hiver avec des maisons couvertes de neige. Bon, ça n'a rien d'original. Hein, il y a quelques jours, il y en avait un peu pas loin d'ici. Mais en revanche, vous voyez là, ici, une rivière qui est gelée. Alors ça, c'est dans la Flandre belge. Une rivière qui est gelée, des gens qui sont en patin, qui vont faire leurs courses au supermarché probablement en patin, ou des enfants qui vont à l'école en patin. Ça, vous ne le verriez probablement plus aujourd'hui dans, je dirais, l'Europe continentale, peut-être en Scandinavie. Des toits et de la neige, si. Alors, pourquoi? Ça, c'est l'Europe au XVIIe siècle. Là, c'est le XVIe. L'Europe au XVIIe siècle connaissait ce qu'on a appelé un petit âge glaciaire. C'est le contraire d'un réchauffement climatique. Donc on n'a pas compris pourquoi. Des hivers très rigoureux depuis le XIVe siècle, donc mauvaise récolte, famine, donc un contexte aussi politique qui était un peu difficile. Même époque, expansion urbaine, démographique, disons expansion urbaine, en Europe continentale comme en Angleterre, crise énergétique. Crise énergétique, on manque de bois. On manque de bois, en particulier en Angleterre. Alors du bois pour quoi faire? Pour se chauffer, pour faire de la métallurgie, pour la construction navale, etc. Les Anglais réagissent et ils vont au charbon. Je dirais à la fois au propre et au figuré. Ils connaissaient l'existence de mines de charbon, donc comme substitut au bois, et concomitamment inventent la machine à vapeur. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de relation de cause à effet, mais je dirais qu'il y a quand même une coïncidence. Alors vous voyez là, c'est une photo d'une maquette reconstituée d'une des premières machines à vapeur qu'on appelait à l'époque la machine à vapeur à feu, de Newcomen, 1700-1705. La première machine à vapeur servait d'ailleurs à pomper l'eau des mines de charbon. Bon, alors j'arrête là ces considérations et je me suis dit mais pourquoi la France a-t-elle pris un retard considérable sur l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, comme tous les pays du continent, exemple, la machine à vapeur a été perfectionnée par Watt, n'a pas été inventée par Watt, mais la France a importé la première machine à vapeur de Watt très performante pour l'époque en 1781, alors qu'elle a été mise au point en 1750, par des industriels qui s'appelaient les frères Perrier, qui avaient un atelier de mécanique dans ça s'appelait à l'époque le village de Chaillot. Ceux qui connaissent Paris, c'est le Trocadéro d'aujourd'hui. Non pas pour en faire un outil industriel, mais pour pomper l'eau de la Seine, pour la distribuer aux gens du coin. Bizarre. Alors que les Anglais, eux, en avaient fait un outil industriel. Bilan, 3000 machines à vapeur en France en 1830, 15 000 en Angleterre. On voit déjà un écart, je dirais, technique et industriel tout à fait considérable. Alors je me suis dit pourquoi. Alors j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de pensée ou une fiction historique. Les historiens anglo-saxons aiment beaucoup ça. Autrement dit, ils se posent la question, qu'est-ce qui se serait passé si? La raison, ce n'est pas pour pleurer que l'histoire ait été comme cela, mais pour essayer de comprendre les causes de l'histoire réelle. Un historien français qui est connu, Antoine Pro, qui est un spécialiste de l'histoire de l'éducation, histoire aussi de la guerre de 14, a dit ceci, imaginer une autre histoire, c'est le seul moyen de comprendre les causes de l'histoire réelle. Alors, juste un exemple, je ne vais pas aller plus loin, je me dis, l'histoire de France tourne en 1715. C'est la mort de Louis XIV. Louis XV, son petit-fils, est mineur. Il n'est pas mineur de charbon, mais il n'est pas majeur. Et donc, il y a un régent, le prince d'Orléans, ça c'est l'histoire vraie, qui a compris la situation, et qu'il fallait que les choses changent. Malheureusement, il n'a pas survécu assez longtemps. Louis XV est devenu majeur. Louis XVI n'a rien fait. Mais j'imagine que, quand même, Louis XV, Louis XVI font des réformes avec un ministre connu, Necker, qui est un ancien banquier. Il fait des réformes. Hein. Aucun parallèle avec une histoire actuelle. Hein. Bon. Et donc, la France rattrape son retard. Alors, je décris ça en 2-3 pages. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelles ont été les variables, ce que j'appelle les variables, de la révolution industrielle, la révolution machine à vapeur charbon, qui aurait pu jouer en France pour qu'elle rattrape son retard. Alors je dis, dynamisme des entrepreneurs, donc existence d'un capitalisme entrepreneurial, si je puis dire. Des capitaux, ils existaient en France, mais ils étaient coincés dans la rente foncière ou les entreprises coloniales. Une capacité d'innovation, une relation étroite entre la science, la technique et l'industrie, qui aurait permis, je dirais, d'en arriver là où l'Angleterre se trouvait, disons, vers 1780. Ces variables existaient à peu près en Angleterre. Je donne juste un exemple. Vers 1780, des gens comme James Watt, Adam Smith, l'économiste, un physicien de Glasgow, Joseph Black, un industriel du textile Arkwright, un industriel du verre et de la céramique Wedgwood, la ferme Wedgwood existe encore, avaient créé une société qu'ils avaient appelée la société lunaire. Ce n'étaient pas des lunatiques, mais ils avaient pris, c'est bien un truc anglais, hein, ils se réunissaient les nuits de pleine lune à Birmingham, là où James Watt avait son usine. Et alors, ils discutaient entre eux d'innovation, de banque, de financement, d'industrie, de science, etc. Tout ce monde se connaissait. Et ça, on ne trouvait pas cette situation-là en France, alors que la France était le leader scientifique, je dirais, de l'Europe. Bon, je fais aussi des fictions, mais là, je passe. J'imagine qu'est-ce qui pourrait se passer à Singapour en 2050 pour développer la cité-État. Ça, c'est la cité-État aujourd'hui. Je dis, ils utiliseraient un urbanisme moderne, des investissements, de la science et la technique pour être autonomes en énergie, ce qu'ils ne sont pas actuellement. Et j'imagine un peu ce qui se passe. Bon, j'arrête là. J'arrête là. Je vais utiliser après ce que j'appelle ces variables clés. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Production d'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est tout ce qui arrive dans notre panier d'énergie avant de le transformer. Du pétrole, avant de le passer dans une raffinerie de pétrole pour faire de l'essence, du gazole, du kérosène, etc. Je symbolise ça par une vieille pompe à gazole, hein, que certains d'entre vous, peut-être pas, parce que vous êtes jeunes, mais ont connu. Moi, j'ai un souvenir. Mais il n'y a pas que du pétrole dans l'énergie mondiale. Dans le monde, dernier chiffre, en 2016, on a consommé 13,8 milliards de tonnes équivalent pétrole. Comme on dit, des gigatonnes. Pourquoi équivalent pétrole ? Si vous brûliez, ce que vous ne faites pas probablement, une tonne de charbon dans votre chaudière, pour chauffer votre librairie, vous ne dégageriez que 70% de l'énergie que dégage la combustion d'une tonne de pétrole. Donc on dit une tonne de charbon est équivalent à 0,7 tonnes de pétrole, TEP. Voilà. Et ça, disons que les économistes ou ceux qui font de l'énergie, ils utilisent souvent cette correspondance entre pétrole et autres énergies. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la pompe à énergie ? Du monde. Du pétrole, 32%, du charbon, 28%, et le charbon a remonté ces 10 dernières années, notamment pour la production d'électricité. Bon, maintenant, ça se stasse un peu, si je puis dire, le charbon. Le gaz est à 22%. Biomasse, c'est-à-dire du bois, des déchets végétaux, de l'éolien, du solaire, ça fait 13%, ce qui est pas mal. Hein. Et puis, vous avez l'électricité nucléaire, 5%, l'hydraulique, 2%. Et puis, si vous faites le total pétrole plus charbon plus gaz, vous trouvez 82%. 82% d'énergie fossile, donc non renouvelable. Et ça, c'est une partie du problème, on va en reparler. Et cette proportion, 82%, elle est à peu près stable depuis une dizaine d'années. Ça diminue d'un epsilon chaque année, mais donc pas beaucoup. Bon. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Ah oui, non, c'est simplement les fossiles. C'est les fossiles. Il y a 82% de fossiles. Bon. Alors, maintenant, je me dis, quels sont les défis auxquels on est confronté, ou l'énergie est confrontée, dans les années et les décennies qui viennent? J'en ai listé trois. Le premier, c'est le développement des pays émergents, c'est-à-dire les pays du Sud, mais on met dedans la Chine, l'Inde, même si c'est des vieux pays. Hein. Bon. Avec des très fortes inégalités énergétiques dans le monde. Bon, je ne vais pas parcourir toute la liste. En France, on consomme 4 tonnes équivalent pétrole par habitant. Hein. Aux États-Unis, 7, à peu près deux fois plus que nous. Afrique subsaharienne, 0,5, donc presque 10 fois moins que nous. L'Afrique subsaharienne, c'est tous les pays au sud du Sahara. Donc ça va du Mali à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud doit avoir 1,2, 1,3 parce qu'ils ont pas mal de charbon. Le Tchad, le Mali, ils doivent être à 0,4, quoi, hein, tonne équivalent pétrole. La Chine, 2, c'est deux fois moins que nous, mais c'est quand même environ 4 fois les pays d'Afrique subsaharienne. Hein. Qui plus est, 1 100 000 000 d'habitants de la planète n'ont pas d'accès direct à l'électricité, ce qui pose quand même des problèmes. Moi, j'allais assez souvent à Yaoundé, capitale du Cameroun, hein, ces dernières années, je ne vais plus maintenant, mais qui est une ville, un pays relativement développé. Le soir, la moitié de la ville était dans l'obscurité, hein, sauf le quartier du palais présidentiel. Bon. Ça veut dire pas d'électricité pour pomper l'eau, etc. J'ai reçu hier une invitation à faire un don à une association qui s'occupe d'aide aux enfants des pays en développement. Il disait qu'en Afrique de l'Ouest, 9 écoles sur 10 n'ont pas l'électricité. Hein, ce qui veut dire le soir, pas moyen de faire des cours ou pas d'ordinateur. Bon. Donc c'est un facteur de clé du développement, l'énergie, et je dirais cette inéquité énergétique va être une source de tension internationale, moindre développement et je dirais même de tension entre les pays. Oui. Ça, c'est les émissions j'en ai pas parlé, les émissions de gaz carbonique lorsque vous faites de la combustion. Oui, un équivalent, d'accord. Mais j'ai les. Parce que 9, c'est probablement l'Afrique du Sud, hein, et 0,1, c'est peut-être le Tchad ou le Mali. L'Afrique du Sud a énormément de charbon. Ils fabriquent leur électricité avec du charbon, donc ils consomment pas mal de charbon. Ils envoient du CO2 dans l'atmosphère. Bon. Donc ça, c'est un premier défi. On n'en parle pas souvent. Sauf au moment la COP21, la COP22, la COP23, etc. Puis après, on passe à autre chose. Bon. Deuxième défi qui est connu, j'épilogue pas longtemps, c'est le défi climatique. Vous voyez là, c'est une photo d'une centrale polonaise, électrique polonaise. Hein, vous voyez les fumées émises par la centrale. Au premier plan, vous avez une mine de charbon ou de lignite à ciel ouvert, avec des camions probablement qui envoient du charbon à l'usine. Je ne sais pas pourquoi on peint les camions en blanc pour transporter du charbon. Enfin, ça, c'est une idée polonaise, mais bon. Hein, 80% de l'électricité est fabriquée au charbon en Pologne. La consommation de combustibles fossiles, ça, c'est une banalité, l'envoi du gaz carbonique dans l'atmosphère, on le sait depuis un siècle. Hein, mais les climatologues sont quasiment unanimes, à déclarer que la cause majeure du réchauffement climatique qui est en cours, ce sont les émissions de gaz carbonique, notamment dans l'atmosphère, les gaz carboniques liés aux combustibles fossiles. D'où, depuis une vingtaine d'années, des discussions périodiques dans le cadre de l'ONU et de la Convention de l'ONU sur le changement climatique, signée en 1992, avec des conférences annuelles pour faire le point. Et puis le point fort de la conférence de Paris en 2015, la COP21, où j'ai des déclarations qui n'est pas une obligation juridique, hein, mais engagement pour les pays d'éliminer les émissions de gaz carbonique pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés entre les débuts de l'âge industriel dont je parlais il y a quelques instants et à la fin de ce siècle. Si possible, aller en dessous. Bon. Résultat, il faut décarboner l'énergie, c'est-à-dire utiliser autre chose que des énergies fossiles. Petit constat, les émissions de gaz carbonique pendant 3 ans, de 2014 à 2013 à 2016, ont plafonné, n'ont pas augmenté, mondial. Mais là, il semblerait que cette année, elles réaugmentent. Donc, je dirais que l'engagement de la conférence de Paris est probablement difficile à tenir, mais les choses ne sont pas terminées. Bon. Troisième défi, oui, qui est aussi une limitation, c'est la disponibilité des ressources énergétiques. Hein, la disponibilité des ressources énergétiques, vous voyez ce technocrate qui est juché sur un baril de pétrole, il regarde avec des jumelles les ressources, enfin c'est du symbolique, hein, les réserves énergétiques, il dit pétrole conventionnel 50 ans. En gros, chaque année, on consomme plus de pétrole qu'on en a découvert l'année d'avant. Alors, il y a un petit degré de liberté avec le pétrole de schiste qu'exploitent maintenant massivement les Américains. Le gaz naturel, 60 ans ou 100 ans, si on met du gaz de schiste, pétrole de schiste avant. Du charbon, 120, 150 ans. Bon. De l'uranium, pour les centrales nucléaires que j'appelle classiques, environ 80 ans. Donc, on me dirait, pas vraiment de problème. Puisqu'il y a le gaz et le pétrole de schiste qui donnent, on peut en discuter, mais qui donnent un petit degré de liberté, la géopolitique intervient. La géopolitique dont je parlais initialement intervient sur le pétrole, le gaz naturel, dans la mesure où la moitié... Oui. Oui, au rythme de consommation actuelle. Oui, bonne question. Au rythme de consommation actuelle. Oui, absolument. La géopolitique intervient parce que la moitié des réserves de pétrole et de gaz, en gros, sont dans les pays du Moyen-Orient, région particulièrement instable, et qu'on n'est pas à l'abri, je dirais, d'un coup de torchon. Bon. Mais autre problème dont on ne parle pas beaucoup, c'est la disponibilité de métaux pour les énergies renouvelables, parce que j'en parlais dans un instant. Si on remplace ces énergies fossiles par des énergies renouvelables comme le solaire, enfin les cellules solaires ou les turbines d'éoliennes, on a besoin de métaux pour construire, fabriquer des cellules solaires, etc. Et que certains de ces métaux, on n'a pas, je dirais, beaucoup d'estimation des réserves et on a un risque sérieux sur la disponibilité d'un certain nombre de métaux pour l'avenir. Et ça, c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup, mais qui se posera tôt ou tard. Bon, alors je résume ça par une plaque de rue, une photo d'une plaque de rue que j'ai prise en Italie. Enfin, ceux qui connaissent l'Italie, ils ont marqué qu'en Italie, ils ont des belles plaques de rue. Hein, ce n'est pas comme à Poitiers ou à Paris, pareil. Hein, c'est pas du métal, hein, c'est du marbre. Bon, et je triche sur la traduction du mot italien carboné, ça ne veut pas dire carbone, mais charbon. Donc, la rue du charbon est devenue une avenue, elle va devenir une impasse. D'ailleurs, si vous voyez, ceux qui connaissent l'italien, ils voient Giavicolo del Carbone, c'est-à-dire petit chemin hein, du charbon, parce que c'était en centre-ville, ils allaient chercher le charbon, je ne sais pas où. Donc, résultat, on est obligé, entre guillemets, hein, de faire une transition énergétique, pour les raisons que j'ai dites, notamment le réchauffement climatique, et donc de décarboner l'énergie. Alors, ceci veut dire, notamment, mais pas seulement, qu'il faut augmenter la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie, à condition que cette électricité ne soit pas produite avec des combustibles fossiles, du charbon ou du gaz naturel. Un peu de pétrole, mais beaucoup moins maintenant. Beaucoup de scénarios, je les analyse dans mon livre, sans rentrer dans les détails, beaucoup de scénarios imaginent en 2005, font l'hypothèse, ne prévoit pas, mais font l'hypothèse qu'en 2050, la consommation mondiale, ou la production donc, d'électricité, doublerait d'ici 2050. Mondiale, hein. Bon. Alors, comment faire maintenant? Ben, je dis, il faut agir avec les variables clés que j'ai identifiées par mes imaginations historiques, mes fictions, mais après tout, c'est aussi le bon sens, hein. J'ai repéré, je dirais, 4 paquets, si je puis dire, de variables clés. La première, qui est importante, et je dirais relativement facile, entre guillemets, à mettre en œuvre, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire dépenser moins d'énergie pour obtenir le même résultat. Dépenser moins d'énergie ici, dans ce bâtiment, pour le chauffer. Et toujours garantir, je ne sais pas combien, 21 degrés, bon, bref. Hein, c'est... c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Augmenter, autrement dit, les rendements des systèmes thermiques. Juste un mot sur le transport. On n'en parle plus beaucoup, mais il y a 5-10 ans, à peine, il y avait un objectif gouvernemental qui consistait à augmenter, enfin plutôt diminuer la consommation d'essence des automobiles et d'avoir des automobiles moyennes, disons, à 3 litres au 100, 2 litres, 3 litres au 100. Alors qu'aujourd'hui, ça doit être 6 litres au 100. Bon. On n'en parle plus beaucoup. Les Japonais disent qu'ils ont, Mazda notamment, une voiture moyenne à 2,5 litres au 100, enfin, qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc, si on consomme deux fois moins d'énergie pour faire le même nombre de kilomètres, évidemment, c'est avantageux. Le risque, c'est que, comme on consomme moins d'essence et que ça coûte moins cher, on dit, bah, très bien, je veux faire plus de kilomètres. Hein. Donc, ça, c'est un risque qu'on appelle l'effet rebond. Bon. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus. La démographie et l'urbanisme, hein, c'est les aménagements urbains, des villes plus économes en énergie, avec une mobilité, probablement une mobilité électrique. C'est une variable importante, j'y reviendrai. La science et la technique, bah, c'est le moyen de faire sauter des verrous techniques, d'imaginer des nouvelles filières énergétiques ou d'autres modes de consommation de l'énergie. Et puis, des innovations sociales, c'est le travail, la mobilité, encore une fois, la mobilisation d'investissements, etc. J'en dirai aussi quelques mots. Alors maintenant, s'affranchir du carbone, notamment pour produire de l'électricité, comment faire? Alors là, il y a deux moyens. C'est du carbone, c'est-à-dire des énergies fossiles. Les énergies renouvelables, ou, si on admet de continuer l'énergie nucléaire, hein, d'utiliser des centrales nucléaires ou des réacteurs nucléaires. Bon. Alors, comment faire? Je vais donner quelques coups de projecteur. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Énergie éolienne. L'énergie éolienne, elle est au point. Bah, ça, l'énergie éolienne, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça date du 10e ou 11e siècle. C'était inventé en Perse, etc. Bon. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, on a perfectionné les éoliennes, les turbines, etc. C'est au point. Le kilowattheure éolien terrestre, hein, je dis bien terrestre, il est pratiquement compétitif. Ça veut dire sans subvention. Dans l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, oui, et le Danemark, il ne l'est pas encore en France. Hein. Il sera probablement dans 4-5 ans. Bon. Donc là, c'est une bonne, si je puis dire, c'est une bonne technique. Il n'y a pas besoin de rupture technique, de progrès considérable. On sait, les Allemands ont une usine qui fabrique des éoliennes d'une puissance de 4 à 6 mégawatts. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons 5 mégawatts pour simplifier les choses. 5 mégawatts, c'est la moitié de la puissance des moteurs d'une rame complète du TGV Atlantique. Donc c'est quand même important. Je ne dis pas ça pour inciter la SNCF à mettre des éoliennes sur ses TGV. Il ne marche pas toujours. Alors, bon, bref. Alors ça, c'est l'autre version. C'est l'éolien offshore. Donc là, vous voyez une grosse éolienne, probablement en Allemagne ou au Danemark, hein, au bord de la mer. Là, vous voyez un vague clapotis derrière. Là aussi, c'est au point. C'est au point. Il y a quand même des progrès réalisés pour l'offshore parce que c'est en milieu corrosif. L'avantage de l'éolien en mer, offshore, c'est qu'il y a toujours du vent, bon, là, quasiment toujours du vent. Quelquefois, il y en a trop. D'ailleurs. Bon, hein, mais donc, c'est très rentable par rapport à l'éolien terrestre. Mais il faut mettre des éoliennes à 10 km mettons, de la côte, donc sur des plateformes, quelquefois. Il faut tirer un câble électrique, donc ça coûte plus cher. Qui plus est, il faut aussi des métaux, probablement pour les pales, pas probablement, pour les pales des éoliennes qui tiennent à la corrosion, au vent, etc. Mais disons, il n'y a pas vraiment d'obstacle technique. C'est probablement rentable en Europe du Nord, ou tout près d'être rentable. Ça ne l'est pas en France. La preuve, c'est d'ailleurs qu'il n'y a pas encore une éolienne offshore qui fonctionne en France. Il y en a une en test au Croisic, mais disons peut-être que dans une dizaine d'années, ça serait rentable. On imagine des éoliennes de 20 mégawatts, hein, c'est donc une puissance importante, hein, deux fois les moteurs de puissance de moteur d'une rame de TGV, sur des plateformes flottantes. Ça veut dire 150 mètres de haut, le mât à 150 mètres, enfin la turbine au sommet d'un mât à 150 mètres, et puis des pales de diamètre de 150 mètres. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est envisageable, et avec ce genre de parc éolien, ça serait probablement rentable. En France, pas avant 10-15 ans. Mais c'est une voie, je ne dirais pas que c'est sûr, mais il n'y a pas besoin de rupture technique. Il n'y a pas besoin vraiment de rupture technique. Alors, maintenant l'énergie solaire. Le soleil nous envoie 6000 fois notre énergie quotidienne. 6000 fois, c'est énorme. Alors, on peut l'utiliser pour faire pousser des plantes, évidemment, mais aussi pour produire de l'électricité avec, par exemple, ce qu'on appelle la filière photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on utilise des panneaux solaires, des petites cellules en bleu là, qui sont, le matériau, c'est du silicium. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein, ceux qui ont fait un peu de physique, et même tout le monde, on l'imagine, les petites particules de lumière qu'on appelle les photons frappent le semi-conducteur qui est le silicium, éjecte un électron, ça débite dans un circuit extérieur, on a un courant électrique. Bon, ça c'est au point, ça marche depuis une bonne cinquantaine d'années, mais disons qu'il y a des progrès à réaliser. Qui plus est, le coût des panneaux solaires a chuté d'un facteur 4 pratiquement en 10 ans, sous l'effet notamment du dumping chinois qui a envoyé par terre l'industrie solaire allemande et française. L'industrie européenne du solaire photovoltaïque, a été quasiment mise à genoux par le dumping chinois. Le rendement, il est au maximum de 25%, c'est-à-dire la part de du rayonnement solaire transformé en électricité, c'est 25%. C'est pas qu'on s'y prend mal, mais le silicium, qui est un semi-conducteur classique des puces électroniques, eh bien, il absorbe bien le rouge, moins bien le bleu et le vert. Alors, on peut utiliser d'autres semi-conducteurs, comme l'arsénure de gallium, là, qui absorbe bien dans le bleu et dans le vert. Et en mélangeant les deux, on a un rendement de 40%. Mais les cellules coûtent 2 à 3 fois plus cher. Donc, ce n'est pas forcément la voie d'avenir. C'est utilisé sur les satellites, les panneaux solaires des satellites. Mais là, on ne regarde pas au prix. Pour un satellite, c'est même mineur dans le prix d'un satellite. Alors, il y a d'autres possibilités. Matière plastique, oui, mais il y a des plastiques semi-conducteurs. Le rendement, il est de 10%. Mais c'est évidemment beaucoup moins cher à fabriquer. Donc, pour certains usages, c'est possible. Et puis, il y a une filière qui commence à pointer du nez, ce qu'on appelle les perovskites. Ce sont des matériaux classiques, mais là, ce sont des matériaux à la fois organiques et inorganiques. Les dernières publications récentes, de même quelques semaines, donnent résultat avec rendement de l'ordre de 22-23%. Presque le silicium, mais l'avantage, c'est que ça serait beaucoup moins cher à fabriquer. Parce qu'avec ces matériaux, on les fabriquerait à 80-100 degrés, tandis que le silicium, il faut partir du sable, chauffer à 1000 degrés, etc. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont stables? Ça, ce n'est pas encore certain. Donc, résultat, le kilowattheure solaire photovoltaïque, il est compétitif par rapport aux autres sources d'électricité dans les pays du Sud, ça veut dire la Californie, ça veut dire le sud de l'Espagne, ça veut dire l'Inde, les Indiens disent que c'est compétitif chez eux, la Chine peut-être, mais il ne l'est pas encore, hors subvention bien entendu, hors subvention et hors taxe, il ne l'est pas encore en Europe et en France. Pas avant 10 ans probablement. Bon, quoi qu'on dise. Alors là, on aurait peut-être besoin de rupture technique. De rupture technique, trouver d'autres phénomènes de transformation de la lumière en électricité, ce n'est pas inimaginable, il y a quelques pistes. J'en parle dans mon livre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr, améliorer le rendement des semi-conducteurs, mais disons qu'on a besoin, là, dans les pays comme les nôtres, où il n'y a pas un ensoleillement terrible, on a besoin, là, de progrès techniques. Alors, il y a une autre filière solaire, qui est ce qu'on appelle le solaire à concentration. Là, c'est une centrale solaire au Maroc, à Ouarzazate. Ce ne sont pas des cellules photovoltaïques, mais des miroirs qui ont une forme semi-cylindrique ou cylindro-parabolique. On fait circuler un tube, au foyer de tous ces miroirs avec un liquide qui circule dedans, qui va être réchauffé par la chaleur solaire. On l'envoie au milieu, là où il y a la petite fumée, passe dans un échangeur avec de l'eau. Encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Et puis, on transforme ça en vapeur dans une turbine. C'est une centrale qui semble bien marcher à Ouarzazate, au Maroc. Les États-Unis ont des centrales de ce type-là. La société Total, je ne fais pas de publicité, mais la société Total a une filiale qui s'appelle SunPower en Californie, qui a construit une grande centrale solaire sur ce principe-là en Californie. Ils disent que c'est rentable. Bon, probablement. probablement. C'est pas rentable sous nos cieux. C'est pas rentable sous nos. Il faut un ensoleillement quasiment permanent, ce qui est le cas au Maroc dans l'Atlas, ce qui est le cas en Californie permanent, pas la nuit évidemment. Bon, mais bon. Alors voilà pour le solaire. Alors ceci m'amène à faire un peu un intermède, si je puis dire, à propos des énergies intermittentes, des énergies renouvelables. Elles sont ces énergies solaires et éoliennes intermittentes. La nuit, les panneaux solaires ne débitent pas. Quand il y a trop de vent, les éoliennes ne tournent pas. Bon. Et donc, il faut pallier cette intermittence. Pallier cette intermittence pour pouvoir être certain d'avoir de l'électricité aux heures de pointe. Aux heures de pointe, en ce moment, c'est 5 heures du soir, les panneaux solaires ne débitent pas. Donc, il faut la stocker. Soit avoir un palliatif, c'est-à-dire d'autres sources d'énergie, soit stocker cette électricité. Pour l'électricité, actuellement, on la stocke dans des barrages. On met l'eau au pied du un lac au pied du barrage, on pompe l'eau dans le lac du barrage, beaucoup plus haut. Quand on a besoin d'électricité, on tourne les vannes en sens contraire, on fait tourner la turbine en sens contraire, et ça donne de l'électricité. On perd 10 à 15% au passage. Mais ça, on sait faire, à condition d'avoir des barrages. Ce qui est le cas de la France, ce qui est le cas de la Suisse, mais pas de tous les pays. L'autre possibilité, ce sont les batteries. Les batteries sont une possibilité et sont une nécessité pour les voitures électriques. Pour les voitures électriques. Alors là, j'illustre pour les voitures électriques mes propos par deux photos. L'une, la photo du haut, c'est une voiture des années 1890, une voiture belge. Son propriétaire l'avait appelée la jamais contente parce qu'il fallait recharger ses batteries tous les 20 km, tous les 20-30 km. Mais c'est la première voiture qui a passé les 100 km/h en 1899. Et à l'époque, on a dit, ah ben, c'est la solution. La voiture électrique, c'est la voiture de demain. Bon. On s'est trompé probablement d'un siècle. Batterie au plomb. Bon. La voiture du bas, celle-ci, c'est une Tesla, du constructeur américain Tesla. Elle date d'il y a 4-5 ans, une voiture de sport, affichée 400 km d'autonomie, probablement 400 à 500 kg de batterie. Bon, je n'ai pas été voir dans le coffre, il n'y a probablement plus beaucoup de place pour mettre des bagages. Hein, mais bon. Mais 400 km d'autonomie, hein, c'est important. Batterie lithium-ion, environ, vous voyez, un siècle de progrès, mais les progrès ont été très longs. Alors ça, c'est tout à fait contemporain. C'est la Zoé de Renault, je pense que c'était celle de la version de l'an dernier. Cette année, ils ont d'autres versions. 160 km d'autonomie, 250 kg de batterie. La batterie coûte à peu près le tiers de la voiture. Et ne vendent pas. Renault ne vend pas la batterie, il la loue. Mais on voit qu'il y a quand même des progrès, batterie lithium-ion. Ce qu'il faut, et ça c'est un quasi impératif, c'est d'augmenter la densité énergétique des batteries, c'est-à-dire les kilowattheures par kilo, de façon à ne pas embarquer 200, 300, 400 kilos de batterie dans sa voiture. Et ça nécessite des ruptures techniques. Les batteries lithium-ion, le maximum, c'est aujourd'hui 200 watts. Et il faut trouver sans doute d'autres filières de façon à abaisser à la fois le coût des batteries et en même temps augmenter la densité énergétique. Autre problème, c'est la recharge rapide des voitures, des batteries des voitures. Hein. La Zoé, si vous avez un dispositif de charge chez vous, encore faut-il avoir un garage chez soi, etc., bon, ça vous prend la nuit. Prend la nuit. La Tesla annonce des batteries avec un système de charge rapide pour environ 300 à 400 km d'autonomie sur les voitures qu'il vend, 21 minutes. 21 minutes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Parce que vous allez dans une station-service, le temps que vous mettiez votre carte de crédit, etc., bon, ça fait 21-25 minutes. Bon, vous pouvez aller prendre un café ou faire des courses, etc. Mais disons, c'est pas immédiat. Ça pose quand même un problème, en plus, je dirais, de gestion de station-service. Il peut y avoir des queues énormes si chacun met 20 à 25 minutes pour recharger ses batteries. Ça ne veut pas dire, je ne fais pas une peinture noire, mais que les solutions ne sont pas encore complètement disponibles. En plus, il faut que ça soit un coût raisonnable. Alors ça, c'est un autre système. Là, c'est une photo d'une centrale éolienne, d'une ferme éolienne au Japon. Hein, vous voyez, en arrière-fond des éoliennes, les collines, etc. Je ne sais pas très bien où c'est au Japon, mais au premier plan, vous avez là toute une série de batteries qui stockent l'électricité produite par les éoliennes qui sont dans le fond. Ce sont des batteries avec du sodium et du soufre. Ce n'est pas sans risque non plus. Le sodium, ça s'enflamme facilement. Il y a eu un accident d'ailleurs au Japon. Il y a une centrale solaire française à La Réunion qui fonctionne sur ce principe-là, avec une batterie sodium-soufre, mais c'est une centrale solaire, 10 MW de puissance. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des problèmes. Bon. Mais vous voyez que c'est très volumineux. Mais pour stocker de l'électricité près d'une centrale électrique, peu importe le poids, à la limite, il suffit d'avoir une chape en béton, puis ce n'est pas comme une voiture. Bon. Maintenant, petite pause, toujours là, mais là, c'est plus d'électricité, les biocarburants. Les biocarburants, alors là, c'est l'alternative aux carburants fossiles. Hein. Carburants fossiles, on peut utiliser le biocarburant pour faire l'électricité, mais ça n'a pas un intérêt énorme. En revanche, on sait en France qu'on utilise dans les carburants environ 7 à 8 % de carburants sont des biocarburants, de l'éthanol mélangé à l'essence, hein, ce qu'on appelle le bioéthanol, ou le biogazole sont des huiles végétales transformées et mélangées à du gazole. Donc ça fait quand même en France environ 8 % des carburants. Au Brésil, certaines voitures roulent complètement à l'alcool. Mais il faut changer le moteur. Alors, comment fait-on ces biocarburants? Mettons l'éthanol. L'alcool, donc, eh bien, par exemple, on prend du maïs. On peut prendre du blé. Ou alors la canne à sucre, ça c'est plus facile, on a le sucre directement. Le maïs, c'est de l'amidon. Les grains d'amidon, on les transforme en sucre avec une enzyme. On fait fermenter le sucre, transforme en alcool avec une autre enzyme. On obtient de l'alcool. C'est vieux comme Mathusalem. Bon. Et puis on le mélange à l'essence. Le problème, c'est est-ce qu'il est décent, disons, ou éthique, d'utiliser une matière première à finalité alimentaire, comme le maïs, hein, alimentation humaine ou animale, pour fabriquer des carburants, alors qu'on va voir 9 millions ou 9 milliards et demi d'habitants de la planète en 2050, qu'il y a pas loin d'un petit milliard d'habitants de la planète qui sont en sous-alimentation. Donc c'est quand même pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Alors, il y a une alternative qui est celle des carburants dits deuxième génération, là ce que pointe la flèche verte, on peut utiliser l'enveloppe végétale, les rafles de maïs, de la paille, etc., hein, que rarement utilisés par les animaux, sauf les chèvres qui mangent tout. Bon, c'est un sucre, mais c'est un sucre compliqué, un polymère du glucose. Donc on prend une enzyme, on coupe en quelque sorte la cellulose pour faire du glucose, et on fait refermenter avec une autre enzyme, comme dans le cas précédent, hein, le glucose, et on a de l'alcool. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les carburants de deuxième génération, que développent en ce moment beaucoup les Américains. Il y a une dizaine d'usines dans le monde prototypes, il y en a une en France, à Pomacq-le-Bazancourt, près de Reims, hein, pour tester le procédé. Le rendement du procédé est moins bon que le premier, mais c'est une voie possible. Alors, y a-t-il une rupture scientifique ou technique? Oui, il y en a une éventuelle. Ça serait de reprogrammer le génome, c'est-à-dire des gènes d'une cellule végétale, d'une microalgue ou de bactéries, c'est-à-dire modifier le génome de ces bestioles, si je puis dire, pour qu'elles produisent directement de l'alcool ou des hydrocarbures. Ça, l'expérience a été faite par des Coréens, il y a 4 ans déjà, c'est pas nouveau, en modifiant deux gènes d'une bactérie classique, hein, Escherichia coli, on lui donne à manger de la cellulose, elle fait directement un hydrocarbure. Rendement évidemment très mauvais pour l'instant. Mais disons, ces techniques de la génétique permettraient peut-être de fabriquer décemment, si je puis dire, certains biocarburants, peut-être 20-30% de biocarburants à l'horizon d'ici 20-30 ans. Donc ça, c'est une voie possible. Voie possible, donc, d'utiliser la génétique. Alors, on fait des OGM, hein, on modifie le génome d'une bactérie, d'une algue, etc., en milieu contrôlé. Alors maintenant, Je terminerai presque par l'énergie. Vous me dites hein, si je dépasse mon temps. Le nucléaire. Alors, le nucléaire, en admettant, après Fukushima, qu'on continue à investir sur le nucléaire, ce que font un certain... La France, pour l'instant, n'a pas décidé de le quitter. L'Allemagne le fait, la Suisse le fait, va le faire. Hein. La Chine et l'Inde... L'Angleterre ne le quittera pas. La Chine et l'Inde développent fortement le nucléaire. Néanmoins, il y a une épée de Damoclès au minimum qui est la disponibilité de l'uranium, des réserves d'uranium. J'ai dit 80 ans. Donc si on en construit des centrales dans 20 ou 30 ans, il faudra se poser la question des ressources en uranium. Bon. Alors, que faire ? Ben, on peut améliorer le rendement des réacteurs actuels en utilisant l'uranium. C'est le fameux projet là, qui défraie la chronique hein, d'EPR à Flamanville. Hein, on fait marcher le réacteur à plus haute température, on gagne un peu en rendement, on utilise toujours l'uranium. Bon, ça, c'est une photo de la centrale, enfin, du chantier qui doit dater d'il y a un an. Ils ont avancé un peu. Mais disons qu'il y a, je sais pas, un dépassement de vie d'un facteur 2 ou 3 et un retard considérable sur les parties classiques, hein, le béton et puis les problèmes de l'acier pour la cuve du réacteur. Bon. Les Chinois ont raccordé à leur réseau électrique un premier équivalent d'un EPR en début d'année. Bon. Et ils testent un peu ce réacteur. Si on n'utilise pas l'uranium, bah, on peut utiliser le plutonium qui est fabriqué, qui est un sous-produit, entre guillemets, de la fission d'uranium, hein, et le mélanger à l'uranium éventuellement dans des réacteurs qu'on appelle les sourds-générateurs qui produiront plus de plutonium qui n'en ont consommé. C'est pas un miracle, hein, c'est moi de la chimie nucléaire. On sait que ça marche, non sans mal. Et puis, une autre voie que testent certains pays, c'est d'utiliser le thorium, qui est un autre métal radioactif. Hein, on peut faire un combustible nucléaire avec. On sait que ça marche. L'avantage du thorium, c'est d'abord qu'il y a 3 fois plus de réserves de thorium que d'uranium dans le monde, beaucoup en Inde d'ailleurs. Les Indiens construisent un prototype de réacteur au thorium. Et il serait très difficile de construire une bombe atomique avec du thorium. Très difficile parce que c'est une chimie extrêmement compliquée et facilement détectable. Bon. Donc ça, ce sont des hypothèses. Et puis reste, malgré tout, de toute façon, avec le nucléaire actuel, le problème du stockage des déchets. Ça, il faut stocker les déchets. Déjà, qu'on a en stock, en France comme ailleurs, 2 réacteurs qui vont fonctionner depuis 30 ou 40 ans, d'où un intérêt pour l'enfouissement souterrain dans des structures géologiques, à l'abri de l'eau, etc., avec le débat sur le site de stockage de Bure dans la Meuse. Mais pratiquement tous les pays ont ce problème-là. Et à l'avenir, si on continue, évidemment, il faudra qu'on ait un système de stockage. Alors, bon, je passe sur la fusion parce que c'est pas que c'est pas important, mais je peux pas. Ça, c'est le, disons, une autre filière autre que la fission. Je pourrais en parler si vous voulez, alors, pour répondre à vos questions. Je termine maintenant tout cela par des caricatures, mais par une considération sur la science et la technique. Alors, là, vous avez, c'est dans un de mes livres pour enfants, celui-là. Que j'avais fait, et j'avais donné des photos au dessinateur, Einstein qui tire la langue à des journées. Il est dans le couloir, hein, je crois, hein, celle-là. Bon, Marie Curie avec sa blouse de laboratoire, le radium, et puis donc il a fait ça. Einstein qui tire la langue à Marie Curie dans son dos, hein, ce qui n'est pas bien. Bon, alors pourquoi en 1905, Einstein avait commis 5 publications scientifiques, hein, il faut quand même le faire, toutes des ruptures scientifiques, la théorie de la relativité, l'effet photoélectrique. La dernière, en octobre, il démontre le principe d'équivalence de la masse et de l'énergie. E égale mc au carré. L'énergie d'un atome, en gros, est égale au produit de sa masse, petit m, par le carré de la vitesse de la lumière. C'est une conséquence, je dirais, de la théorie de la relativité. Un article très simple, niveau terminal. Non, mais c'est vrai. Niveau terminal, hein, et donc il démontre ça. Alors il dit dans la conclusion de son article, qui est très brève, hein, cette conclusion, il est possible que ma théorie explique le dégagement de chaleur constaté avec le radium, hein, ce qu'avaient découvert Pierre et Marie Curie, mais personne ne comprenait d'où venait cette énergie calorifique, hein, dégagée par le radium. Bon, il dit, il est possible que ça soit une explication. Sous-entendu, mais il ne le dit pas, il y a eu fission du radium, perte de masse qui s'est transformée en énergie. Ça, il ne le dit pas parce qu'on n'imaginait pas ça. Bon. Et donc, découverte de la fission de l'uranium, 1938, donc 30 ans ou 35 ans après. Ce que je veux dire par là, on ne peut pas dire aujourd'hui que des découvertes scientifiques sont en gestation dans des laboratoires qui pourraient avoir, je dirais, un intérêt pour des nouvelles filières énergétiques ou des nouvelles utilisations de l'énergie. Qui plus est, je signale, même si c'est moins connu, en 1914, un écrivain de science-fiction anglais, George Wells, quelques mois avant la guerre de 14, avait écrit un livre de science-fiction, baptisé dans sa traduction « La destruction libératrice », un peu curieux comme titre. Il connaissait les travaux d'Einstein, il connaissait les premières hypothèses sur la structure des atomes, et il a imaginé la bombe atomique et des réacteurs produisant l'électricité avec le nucléaire. 1914. Comme quoi, la science-fiction, quelquefois, anticipe, je dirais, avec des connaissances scientifiques, je dirais, des percées, des ruptures scientifiques. Assez remarquable comme vision des choses. Bon, donc c'est le rôle, moi je plaide pour mon ancienne paroisse, le rôle de la recherche à long terme est important pour, je dirais, anticiper des nouvelles filières. Alors, je termine maintenant par les innovations sociales. Les innovations sociales, on peut imaginer, on doit imaginer qu'un certain nombre d'innovations sociales permettraient, faciliteraient la transition énergétique. Le problème des villes. Je ne donne pas de détails sur tout pour ne pas prendre de temps. Les villes, c'est 50% de la population mondiale habite dans des villes, mais les 75 à 80% dans les pays développés de la population habite des villes. C'est là où se consomme l'énergie, c'est là où se gaspille l'énergie. Donc il y a des efforts à faire pour utiliser ce qu'on appelle quelquefois des écoquartiers, je donne deux exemples français, mais il y en a sans doute d'autres, des énergies renouvelables, des aménagements des villes, des sites urbains, de la mobilité électrique pour économiser l'énergie. Donc ça, c'est un enjeu qui est tout à fait considérable avec les techniques qu'on connaît actuellement, éventuellement avec des techniques plus futuristes. Le problème du travail, de l'automation, juste un mot sur le télétravail. Le télétravail, ça veut dire travailler chez soi. Quand vous avez à traiter des données, utiliser des données, vous pouvez le faire chez vous avec un ordinateur. Ça correspond à environ 10% de la population active en France et en télétravail, totalement ou partiellement. Intérêt, vous ne vous déplacez pas. Puisque vous travaillez chez vous, donc vous économisez, ou votre patron économise, en mobilité, puisque vous travaillez à domicile. Donc ça, c'est aussi un biais, ou un moyen, pardon, d'économiser l'énergie. Les politiques fiscales, c'est favoriser, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Là, c'est aussi, dans les villes où l'habitat, un moyen d'économiser l'énergie. Parce que beaucoup de bâtiments, comme celui-ci, probablement, sont des passoires thermiques, parce qu'ils ont été construits il y a 30 ans, hein, je ne sais pas combien de temps ça a été construit, 30 ans ici, et donc, à l'époque, on ne se préoccupait pas d'économie d'énergie. Le gouvernement prévoit 500 000 rénovations de logements par an, ça c'est faisable s'il y a des aides, des aides publiques, soit des prêts bonifiés, soit des crédits d'impôt ou maintenant subventions. Donc ça, c'est une nécessité pour, je dirais, favoriser ce genre d'économie d'énergie. Je terminerai aussi, mais on pourra en discuter, la plupart des scénarios pour l'énergie, en particulier l'électricité, dans le monde ou en France, font l'hypothèse qu'en 2030 ou 2040, la production d'électricité serait assurée par un trio, si je puis dire, pour parler, comme en France, une entreprise nationale produisant l'énergie de base, assurant de passer les pointes, les pointes de consommation, donc l'équivalent d'EDF. Deuxième type d'acteurs, des entreprises locales qui produiraient les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire. Par exemple, une municipalité qui installe à la périphérie de la ville ou du village des panneaux solaires ou des fermes éoliennes et sous forme d'une société d'économie mixte ou des coopératives. Bon. Et qui revendrait l'excès de production qui ne serait pas consommé sur place à l'EDF par un réseau électrique. Bon. Et puis le troisième, ce sont les particuliers qui sont à la fois producteurs, autoproducteurs et consommateurs, qui produisent leur électricité avec des panneaux solaires, par exemple. On n'imagine pas des éoliennes, parce que les éoliennes, c'est quand même c'est bruyant. Et qui revendent leur électricité sur le réseau. Bon. Donc ça, c'est très probablement quand même un scénario d'avenir qui change évidemment les structures industrielles, les moyens, je dirais, habituels de consommer l'énergie. Alors là, j'illustre ça par des diapos. La première, c'est une maison. Encore faut-il avoir une maison pour mettre des panneaux solaires sur le toit pour produire l'électricité. Des panneaux sur les façades, ça j'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait au point pour l'eau sanitaire, l'eau chaude. Donc vous avez des capteurs très simples. Curieusement, c'est très peu développé en France, alors que ça l'est en Allemagne, en Autriche, pays qui ne sont pas plus ensoleillés que le nôtre. C'est simple. Éventuellement une pompe à chaleur, et puis une voiture, l'électricité est stockée dans la voiture pour utiliser la voiture, ou éventuellement redistribuer l'électricité dans la maison quand on en a besoin, et puis le reste, vous êtes relié à un circuit électrique pour revendre votre électricité ou pomper l'électricité quand il n'y a pas de soleil ou pendant une longue période. Bon, deuxième, ce sont des villes plus ou moins futuristes, enfin c'est, disons que... une ville comme la Défense, un peu relookée, si je puis dire, avec des gratte-ciel, des panneaux solaires sur les terrasses, voitures électriques, etc. C'est pas évident que ce soit la solution d'avenir. Pas évident que ce soit la solution d'avenir, parce que vous voyez des grandes avenues, donc vous perdez beaucoup de temps, même avec une voiture électrique, aller faire vos courses, aller à l'école, etc. C'est pas forcément la solution d'avenir. Dans la région parisienne, je sais pas si vous avez vu dans la presse récemment, mais... on est en train de construire une cinquantaine de gares pour le nouveau réseau métro, le Grand Paris du futur. Et l'idée, ça serait d'avoir aussi des centres autour de la gare avec, donc, mettons, un kilomètre de distance au maximum à parcourir, avec du renouvelable. Et puis, je dirais, vous pourriez faire vos courses dans un rayon raisonnable. C'est un peu l'idée qui est derrière. Je ne suis pas certain que ça sera appliqué. La troisième, alors là, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est une ville africaine. C'est Nairobi, la capitale du Kenya. Donc, ce n'est pas n'importe où, avec une rue, qui est à peine carrossable. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Toutes les villes africaines ne sont pas comme ça. Je parlais de Yaoundé, il y a des quartiers modernes. À Dakar, il y a des quartiers modernes, etc. Mais l'Afrique est en voie d'urbanisation considérable. Et donc, s'il n'y a pas de planification, je dirais, du développement urbain, ça va, pour éviter, je dirais, ces semi-bidonvilles, pour loger correctement les gens, qui consomment davantage d'énergie pour se développer. Donc, le problème de l'urbanisme dans ces pays-là, Afrique d'ailleurs, comme une partie des villes asiatiques, est une question majeure. Bon. Alors, je termine sur la France maintenant, un petit retour. La France s'est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz carbonique en 2050 par rapport à 90. Ça, c'est un engagement européen. Ça date du quinquennat Sarkozy. Loi sur la transition énergétique votée en 2015, qui prévoit notamment, jusqu'à 2030, de diminuer de 20% notre consommation d'énergie primaire, ce qui est quand même pas mal, d'ici 2030. De produire en 2030 40% de notre électricité avec des énergies renouvelables. Donc, c'est l'hydraulique, c'est le solaire, c'est l'éolien, alors qu'on est à 18% cette année. Et de diminuer notre proportion d'électricité produite par le nucléaire, 75% à 50%, en 2025. Actualisation de tout ça, parce que ça, c'est la loi de 2015. Le gouvernement, par la voix de Nicolas Hulot, en juillet, a proposé un plan climat, énergie-climat, neutralité carbone de la France en 2050. Donc on n'émet plus du tout de gaz carbonique, ce qui va bien au-delà du facteur 4. Si on en émet, on se débrouille pour le faire disparaître. Bon. Fin de la vente des véhicules à moteur thermique, donc essence ou diesel, en 2040, donc remplacés par des véhicules électriques. On voit que le je mets un point d'interrogation là. Je renvoie à mes interrogations sur les batteries. Hein. Une prime pour la rénovation des logements. Rénover 500 000 logements en France par an. Fin d'exploitation des hydrocarbures en France. Bon. Alors là, tout récemment, ça date d'il y a 3 semaines à peu près, la filiale d'EDF qui s'appelle RTE, qui doit exposer là, pas loin d'ici, hein, quoique là, il ne parle pas de ça parce que ça, c'est récent, a fait 5 scénarios pour l'électricité en France, hein, jusqu'à 2035. 5 scénarios. 5 scénarios, il ne prévoit pas, d'ici 2035, pas d'augmentation de la consommation d'électricité, pratiquement pas, sauf une inconnue. Si la voiture électrique se développe beaucoup, il faudra consommer, on sera obligé de consommer de l'électricité. C'est évident, avec un risque aussi que ça se passe pendant les heures de pointe le soir, que tout le monde, évidemment, va recharger sa batterie au même moment. Alors, si c'est la nuit, on peut étaler, hein, mais si c'est au même moment, ça fait sauter les plombs, si je puis dire. Donc là, il y a une inconnue. Et, disent-ils, conclusion de leur scénario, il faut étaler la baisse du nucléaire. On ne peut pas atteindre l'objectif 50% de nucléaire en 2025. Parce qu'il faudrait fermer les centrales à charbon qui subsistent, il y en a encore, je ne sais plus si c'est 2 ou 4, et fermer une 20aine de réacteurs nucléaires. On ne peut pas. Le gouvernement a dit, y compris nucléaire, bon, bah oui, on va revoir. On va revoir la copie qui était celle de la loi de 2015, hein, et étaler la fermeture des centrales nucléaires, avec en plus, disent-ils, mais ça, ce n'est pas dans leur scénario, une vigilance accrue, notamment cette année, ou peut-être l'année prochaine, pour passer l'hiver. Hein, pour passer l'hiver, c'est-à-dire le risque des pointes de consommation. Bon, je ne sais pas s'ils ont des observations météo, des prévisions météo à horizon 3 mois, hein, mais bon, on sait que certaines années, mais c'est quand même assez rare, on a du mal à passer les pointes. Alors, il faut importer du courant électrique des pays voisins, mais s'ils sont dans la même situation, pas un problème. Bon. Alors, je conclue maintenant, définitivement. Je dis que la géopolitique, qui joue un rôle, hein, d'ores et déjà, je l'ai dit en début, de l'énergie, elle sera différente en 2050, ne serait-ce que parce que l'Asie, avec la Chine et l'Inde, aura un poids prédominant pour des raisons économiques et des raisons démographiques. Hein. Les énergies renouvelables pourront jouer un rôle géopolitique. Je me réfère à tous les problèmes de métaux pour les énergies renouvelables. Par exemple, les terres rares qui sont utilisées notamment dans les aimants des turbines. La Chine actuellement a un monopole de la fabrication, enfin production des terres rares. Hein. Un monopole n'a pas un monopole des réserves, mais les autres pays ne fabriquent pas ces terres rares. Donc il y a un risque là aussi. Ils l'ont utilisé avec le Japon il y a 2 ou 3 ans en disant on livre pas les métaux dont vous avez besoin pour faire ceci ou cela des terres rares. Donc avec un risque, hein, d'embargo ou de boycott, hein, qui n'est pas négligeable. Deuxième considération, bah, il faut faire des choix en matière de pour faire face aux défis. Et ces choix, ils ont été faits donc, par la loi sur la transition, les engagements des gouvernements précédents, et beaucoup en Europe en particulier. Mais disons, il faut les appliquer, ces choix, avec pragmatisme. Hein, pragmatisme. Je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle pour l'énergie, et je mets faire feu de tout bois, y compris du bois d'ailleurs, hein, qui est une source d'énergie renouvelable dont je n'ai pas parlé, mais qui est non négligeable, hein, et qui pourrait être mieux utilisée. Faire des choix, mais ces objectifs supposent qu'on change nos modes de vie. Et ça ne se fait pas en une génération, enfin si, peut-être une génération, voire deux. Donc, on ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats par rapport à ces objectifs, compte tenu, alors au niveau mondial, bien sûr, qu'il y a de très fortes inégalités en matière de consommation d'énergie, de production d'énergie. Ceci dit, il y en a aussi en France. Hein, il y a environ 4 millions d'habitants ou de ménages, hein, qui ont, de foyers, je veux dire, hein, qui ont du mal à payer leur facture d'électricité. Hein, bon. Et puis, une politique énergétique, c'est un arbitrage. Ça sera toujours un arbitrage entre le souhaitable, le possible et l'acceptable. Je prends un exemple, les biocarburants. est-ce qu'il est souhaitable de remplacer l'essence par des biocarburants? Bah, je dis oui, si les conditions, je dirais, de production sont correctes par rapport au climat. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est acceptable? Probablement pas. Si on utilise les moyens actuels de production, là je me réfère à ce que je disais à propos, je dirais, de l'alimentation, c'est vraiment pas acceptable. Et on peut, pour chaque, je dirais, filière énergétique, décliner un peu cette série-là. Et puis je terminerai là en citant Cervantes, qui faisait dire à Don Quichotte, dans son roman, « Il faut donner du temps au temps ». Alors Mitterrand, il disait « Il faut laisser du temps au temps ». Comme c'était un homme cultivé, probablement qu'il avait copié Cervantes. Hein. Mais alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, il faut du temps pour la recherche sur des nouvelles filières, faire sauter des verrous techniques, et puis du temps pour l'éducation, c'est-à-dire former les jeunes générations. Là, ben, les modes de vie vont changer, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, mais il va falloir les changer pour telle ou telle raison que j'ai dite en particulier, et puis aussi former à des métiers de l'énergie, parce que pour faire tout ça, il faut des ingénieurs, des techniciens, etc. Voilà, je vous remercie. J'ai aussi un blog sur lequel vous pouvez trouver des compléments sur ces questions-là.
Merci beaucoup. Donc maintenant, la parole est à la salle. Donc si vous avez des questions, si vous voulez revoir des choses plus précisément, voilà.
Moi, ma première question, c'est sur le nucléaire. On parle d'objectifs 2050, mais tout ça, c'est purement théorique. Et en plus, quand on voit les énergies de substitution actuelles dont vous venez de parler, qui représentent aujourd'hui 10%, il reste 90% de nucléaire.
Non, pas tant.
Pas tant ? Combien ?
En France, c'est 75%.
75% de nucléaire encore.
En pour l'électricité. L'électricité.
Oui, mais c'est comment voulez-vous arriver à trouver une substitution au nucléaire? C'est... Voilà.
Les Allemands ont fait le pari qu'ils allaient y arriver. Ils sont à 30-35% de renouvelables, subventionnés. Hein. Ben, ça, c'est évidemment bon, subventionnés. Ils utilisent encore beaucoup de charbon et c'est un problème qui a contribué à faire capoter les négociations entre Angela Merkel et les écologistes et les libéraux pour la nouvelle majorité. Bon, mais les Allemands disent qu'ils vont le faire, les Suisses disent qu'ils vont le faire. Alors, eux, ils ont des barrages, etc. Hein, donc,
ils ont du charbon ?
Les Suisses, non. Moi, je n'ai pas ma connaissance, ils n'ont pas du charbon. Ils ont du gruyère, mais ils n'ont pas du charbon. Ils en apportent peut-être, mais bon. Alors, je ne dis pas que ces paris-là sont faciles à gagner. Hein, je ne dis pas ça. Je pense qu'il faut faire des paris scientifiques, des paris techniques, et que ça prendra du temps, plus de temps probablement qu'on ne l'imagine. Les Chinois et les Indiens ont des plans très importants pour développer le nucléaire, et donc, en plus, une centrale nucléaire, d'abord, ça coûte cher. Mais en plus, les travaux pour construire la centrale, ils durent 5, 6, 7 ans, on le voit avec Flamanville. Hein. Donc, il vous faut des plans à long terme pour développer le nucléaire, parce que c'est une industrie très capitalistique, ça c'est un inconvénient, hein, et aussi, il faut planifier les investissements sur de nombreuses années. Hein. En revanche, par rapport aux autres énergies, le nucléaire, sauf accident, bien entendu. Bon, bah, la centrale, elle marche 80% de son temps. Hein, le combustible ne coûte pas cher. Et le combustible ne coûte pas cher.
Alors, la deuxième question, c'est le problème du nucléaire. On a du nucléaire aujourd'hui depuis combien d'années ? 30 ans ?
En France, le programme à grande vitesse, c'est 73. A commencé en 73.
Oui.
Donc, alors, là aussi, ça a pris
du temps. Ça fait 40 ans.
40 ans.
Comment ? 40 ans.
40 ans.
Alors, depuis 40 ans, est-ce que les déchets, qu'est-ce qu'on a, on les a mis où ?
Ils sont stockés provisoirement, c'est le problème, provisoirement à La Hague et provisoirement dans un centre de stockage en surface qui dépend d'Andra, la société qui est chargée du problème des déchets nucléaires, qui est chargé de préparer un site de stockage souterrain, donc dans un souterrain à 500 mètres de profondeur, là, près de, à Bure, dans la Meuse, pour s'assurer que ce stockage il est fiable pendant des milliers d'années. Ça, c'est le problème. C'est le problème. C'est une épine dans le talon du nucléaire. Les Suédois ont, disent-ils, résolu le stockage, leur problème de stockage, parce qu'ils ont du granit bon, assez profond, et puis ils ont même des chétenaux. C'est un problème à résoudre. Là aussi, j'en ai pas parlé, mais après tout, pas interdit de penser qu'on trouvera un moyen technique ou scientifique pour casser, si je puis dire, certains déchets à vie très longue, hein, des centaines de milliers d'années, en déchets à vie courte, hein, mettons sur quelques dizaines d'années. Ça, c'est pas impossible. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Il y a des travaux qui sont faits, notamment en Belgique, sur ce sujet-là.
Mais en 40 ans, on a dû produire quand même quelques tonnes.
Bon, plus que quelques tonnes. Plus que quelques tonnes. Je n'ai pas les chiffres, mais plus que quelques tonnes.
Moi, j'avais une autre question à poser. Sur le. Là, on est parti à fond la caisse là, sur l'électricité. Et on a pour les véhicules. Et est-ce qu'on a d'autres recherches? Parce qu'il fut un temps où on parlait d'hydrogène, par exemple, ou donc d'autres méthodes, puisqu'il semblerait que les batteries ne vont pas rétrécir comme ça aussi facilement, quand même. Comment est-ce que vraiment il n'y a que l'électricité, ou est-ce que ça ne serait pas mieux de diversifier les méthodes pour les fameuses voitures, quoi?
Bon, alors, ça c'est l'électricité, j'ai sauté dessus, si je puis dire, sur l'hydrogène. Bon, c'est une possibilité. C'est non pas de faire de la fission, mais de la fusion. Qu'est-ce que c'est, la fusion? Ben, vous prenez des atomes légers d'hydrogène, vous les portez à très haute température, environ 10 millions de degrés, à faute de pression, ils vont entrer en collision, ils vont fusionner pour produire un atome d'hélium. Hop, il y a de la perte de masse qui a été transformée en énergie. C'est l'énergie thermonucléaire qui fait marcher les étoiles ou le soleil. Bon. Et la bombe à hydrogène. Le problème est de le faire en laboratoire, on sait, mais à une échelle para-industriel, ça c'est un projet international qu'on appelle le réacteur International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER, qui est en cours de construction à Cadarache, sur un site du COA, Cadarache c'est près de Manosque, projet totalement international, tout le monde en fait partie. Alors vous voyez le petit rond rouge là qui entoure la personne, le personnage, vous voyez, ça c'est la maquette. Bon. L'idée c'est d'avoir des réacteurs. Alors l'hydrogène, je ne dirais pas qu'il y en a partout, mais presque. Hein. Le problème, c'est qu'on dit depuis 50 ou 60 ans, vous inquiétez pas, ça marchera dans 20 ans. Mais ça, on le dit tout le temps. Et là, on dit, résultat, pas avant de résultat, avant 2030. C'est, en laboratoire, ça marche. Mais on n'est pas certain, pour différentes raisons, qu'on puisse fabriquer de l'électricité à haute dose, si je puis dire, avec ce système-là. Bon, ça, c'est de l'électricité. On peut aussi utiliser l'hydrogène produit, par exemple, par du gaz naturel aujourd'hui. Alors là, vous me direz, on utilise des combustibles fossiles, donc ce n'est pas une bonne solution d'avenir. Mais vous pouvez produire l'hydrogène en faisant l'électrolyse de l'eau. C'est classique, ça. Je crois que dans les lycées, on fait encore ça. Vous produisez par l'électrolyse de l'eau de l'hydrogène et de l'oxygène. Vous le réutilisez dans ce qu'on appelle une pile à combustible, c'est-à-dire qu'elle se recombine l'hydrogène avec l'oxygène, et hop, vous reproduisez l'électricité.
Bon. Mais pourquoi on ne valide pas ce système-là?
Alors, ça marche encore une fois en laboratoire. Le problème, là aussi, depuis 60 ans, on dit que ça marchera dans 20 ans. Bon. Et le problème, techniquement, ce n'est pas très difficile. Mais on a besoin, pour faire cela, de ce qu'on appelle en chimie un catalyseur, c'est-à-dire de favoriser la réaction hydrogène plus oxygène qui donne de l'eau plus d'électricité, et ce catalyseur, c'est du platine. Et là, on n'a pas trouvé d'alternative au platine. Et le platine, ça coûte cher. La production, on retombe sur le problème des métaux critiques, la production de platine, je pense que c'est 300 tonnes par an, quelque chose comme ça, deux tiers en Afrique du Sud. Donc là, ce n'est pas une solution qui serait viable si on ne trouve pas d'alternative au platine. Qui plus est, il faut stocker l'hydrogène si on l'utilise dans une voiture, alors pile électrique, donc moteur électrique. Il faut stocker l'hydrogène, qui est un gaz dangereux. Dangereux parce que facilement combustible. Donc, problème des stations-service, ce n'est pas évident à résoudre. Peut-être une solution, ça peut être une solution pour, par exemple, des lignes d'autobus qui font un circuit, qui reviennent toujours au dépôt, et là, on peut, en lieu sûr, recharger l'hydrogène. L'avantage, c'est que la recharge de l'hydrogène serait rapide. Ça, c'est un avantage. Mais on ne peut pas mettre ça entre toutes les mains.
Alors, ma dernière question, c'est une question que je me pose comme ça pour les voitures hybrides.
Ouais.
Je suis étonné que au moment où la voiture fonctionne avec le moteur essence, qu'il n'y ait pas un système qui justement rechargerait pendant ce temps-là les piles de la partie électricité.
Bah oui, mais il faut que vous soyez en stationnement.
Mais quand le moteur tourne moteur essence,
oui.
Tourne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un alternateur
oui,
sur d'accord. le moteur oui. qui pourrait charger des piles?
Oui, c'est possible, ça. Oui. Seulement, vous consommez aussi de l'essence. Bon. Ah oui, ça c'est
oui,
possible.
Oui, non, mais de toute façon, comme la production électrique ne nous permet de faire que 400 km, quoi, il faut, et pendant ce temps-là, on pourrait, avec... Le moteur essence, recharger les batteries.
Oui, mais vous consommez de l'essence.
Ah bah oui, évidemment.
Ah oui, non, mais si l'idée est de sortir des combustibles fossiles, vous consommez de l'essence. Hein, c'est ça le problème. Hein. L'hybride est une bonne solution transitoire. C'est une très bonne solution transitoire. Et dommage que les constructeurs automobiles européens, français en particulier, ne l'aient pas davantage mis en œuvre. C'est les Japonais qui, les premiers, l'ont fait il y a 10 ans. Alors, et donc, on consomme moins d'essence, sauf que vous rechargez vos batteries soit avec votre moteur essence, soit avec le freinage. Donc, vous récupérez l'énergie du freinage pour faire marcher l'alternateur et recharger les batteries. Bon. Hein. Il faut évidemment que vous produisiez votre électricité quand vous rechargez vos batteries chez vous ou ailleurs avec pas d'énergie fossile. Autrement. C'est pas le problème. Mais c'est une bonne solution transitoire. Oui.
Quelques remarques et une question, s'il vous plaît. En ce qui concerne le nucléaire, vous disiez tout à l'heure que le combustible ne coûte pas cher. Il coûte pas cher financièrement pour nous. Cependant, socialement, pour les pays dans lesquels il y a les mines, il coûte énormément cher. Énormément cher. Il y a un coût social énorme et un danger pour les sociétés. Voilà. Autre chose, le nucléaire, beaucoup maintenant de personnes dans la société se rendent bien compte que ce truc-là, c'est hyper dangereux. Bon, il y a Fukushima récemment qui pose question. Ça ne semble pas une solution durable pour aborder les questions d'énergie. Le nucléaire, il semble qu'il faut prendre la décision, on est nombreux à le penser, de stopper cette façon de produire de l'énergie. D'autant plus que les déchets, imaginons que dans 20 ou 30 ans, comme vous le disiez, on arrive à trouver une façon de faire pour transformer des déchets à longue vie en déchets à courte vie. Pendant tout ce temps-là, si on ne se passe pas le nucléaire, on aura fabriqué encore bien une quantité de déchets énormes. On ne sait pas quoi faire. Il n'est pas du tout sûr que le granit, c'est des Suédois, c'est ça ? Cette méthode-là soit intéressante et fiable. Enfin, le nucléaire a tellement de défauts qu'on est nombreux à penser que la recherche devrait porter ailleurs. Vous disiez tout à l'heure qu'une éolienne allemande était en capacité de fournir la moitié de l'électricité pour un TGV. C'est
5 mégawatts, oui.
Hein, c'est ça. Bon, on imagine qu'une recherche dans les renouvelables de ce type-là pourrait donner des résultats intéressants. J'ai une question. Que pensez-vous des micro-hydroliennes à usage domestique ? J'ai vu un documentaire à la télé sur l'implantation dans un village de l'Inde de micro-hydroliennes, si ma mémoire est bonne, pouvait tenir dans la main, je crois, et fournissait au village de quoi faire fonctionner un éclairage communautaire et, je crois, donner de l'électricité pour avoir accès à un réfrigérateur, etc. Donc, Connaissez-vous cette technologie-là et qu'en pensez-vous? Il me semble que de nombreux endroits sur la planète et en France pourraient être équipés de ce genre de choses pour une consommation domestique.
Alors, beaucoup de questions. La première sur l'exploitation de l'uranium, je suis d'accord avec vous, hein, c'est clair. Je sais pas, c'est 10% du coût de l'électricité, donc c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que sur place, notamment au Niger, d'après ce que j'ai lu, bon, il y a des problèmes d'exploitation avec des déchets là qui sont pas du tout de même nature que ceux qui sortent d'un réacteur, mais qui sont abandonnés, je dirais, dans l'environnement sur place. Hein, bon, c'est des régions pas très peuplées, mais il y a un impact sur les populations et environnementales. En Russie, ex-URSS, hein, bon, les conditions d'exploitation des mines d'uranium à l'époque étaient désastreuses, mais ils s'en fichaient. Bon, bien. Alors ça, je suis d'accord avec vous, il faudrait en tenir compte. Mais disons que laisser des déchets nucléaires ou pas, n'importe où, je dirais que si on y met de l'argent et de la volonté, on peut pallier. Alors deuxièmement, le nucléaire. Bon, moi, je ne dis pas le nucléaire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, tout va très bien, Madame la Marquise. Je pense qu'il est raisonnable d'abaisser la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Parce qu'on peut se trouver face à un problème, comme les Japonais à Fukushima, enfin après Fukushima, où, à suite d'un accident, il faut arrêter toute une filière, du moins tous les types de réacteurs identiques à celui qui a eu un accident. Bon, et donc ça, c'est, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, autrement dit. Donc, je pense que c'est raisonnable de le faire. Néanmoins, il y a des dangers, c'est vrai. Hein, il y a des dangers. La preuve, Fukushima. Alors, on peut dire, ouais, ils ont pas bien vu qu'il y avait un risque de tremblement de terre, ce qui est vrai d'ailleurs. Enfin, de tremblement de terre plus tsunami. L'avantage quand même du nucléaire que nous avons eu français, nous français, depuis 73, c'est qu'on a un courant électrique qui coûte deux fois moins cher qu'ailleurs. Et qu'on a un courant électrique fabriqué, ben oui, par la filière, qui coûte 5,5 centimes à peu près du kilowattheure, hors taxe, hein, bien sûr, puisqu'on le paye 13 ou 14. Bon. Par rapport aux Allemands, par rapport aux Suisses, on a un kilowattheure pour les particuliers, hein, qui coûte beaucoup moins cher. Bon. Ça c'est quand même un avantage. Rien ne dit que on ne pourrait pas trouver, et les Américains maintenant remettent de l'argent là-dessus, les Chinois aussi, des petits réacteurs coûtant évidemment moins cher, hein, petits réacteurs d'une puissance, mettons, de 100 mégawatts, qui permettraient de faire la pointe en période de pointe. Parce que l'inconvénient des renouvelables, c'est que vous avez là aussi un impondérable, qui est la situation météo, anticyclone, vous n'avez pas de vent. Moi, je fais souvent Paris-Tours en voiture. Les éoliennes sur le bord de l'autoroute, il y en a souvent, pas à chaque voyage, mais qui ne tournent pas. Donc, vous êtes obligé d'avoir un palliatif. Le palliatif, c'est soit vous avez des barrages, mais il faut avoir des barrages, hein, soit les turbines à gaz. Les centrales à gaz, parce que les centrales à gaz, vous pouvez les mettre en marche quasiment, peut-être pas à la minute près, mais en un quart d'heure. Mais là, vous retombez sur le problème des énergies fossiles. Donc l'idéal, ça serait d'avoir, mais c'est peut-être, je dirais, une vision, hein, des petits réacteurs qui coûtent moins cher et qui permettraient de compléter, je dirais, le renouvelable avec moins de risques. Moins de risques, parce que ces petits réacteurs fonctionneraient avec beaucoup moins de risques, étant plus petit d'abord, hein, et deuxièmement, problème dont je n'ai pas parlé, avec le risque de prolifération nucléaire, c'est-à-dire production d'armes nucléaires avec le plutonium et l'uranium actuel. Bon. Donc moi, je dirais, il ne faut pas jeter l'opprobre définitif sur le nucléaire. Il y a des problèmes avec le nucléaire. Il y a des problèmes. Votre dernière question, c'est les petites... la mini-hydraulique. Vous appelez ça, je ne sais pas si vous dites hydrolienne ou hydraulique, mais vous pouvez utiliser ce qu'on appelle, et dans certains pays en développement, ils le font, de la mini-hydraulique, c'est-à-dire des petites turbines que vous mettez au fil de l'eau. J'ai une maison, pas loin d'ici d'ailleurs, dans l'Indre, et l'Indre est une rivière où il y a tout le temps de l'eau. Bon. Et il y a beaucoup de moulins. Il y a beaucoup de moulins. Bon, ce n'est pas mon cas. Et un propriétaire m'a dit, mais vous ne croyez pas qu'on pourrait pas, je ne pourrais pas mettre une petite turbine là? Je dis, oui, oui, je vais me renseigner. En fait, les conditions pour exploiter ce genre de turbine, vous demandez l'autorisation, alors que le solaire, l'éolien sont très subventionnés, le prix de rachat du kilowattheure produit par ces mini-turbines est dérisoire. Et là, il y a une responsabilité d'EDF qui n'a jamais voulu admettre, admettre qu'on pouvait effectivement faire aussi de la petite hydraulique chez soi et qu'à ce moment-là, il fallait subventionner. Là, il y a une erreur d'EDF. Le problème, il est encore plus compliqué parce qu'en plus, il faut mettre un barrage avec une écluse pour que les poissons puissent remonter. Et donc, le propriétaire, il a dit, bon, bah, terminé. Donc c'est peut-être faisable dans certains pays, mais vous avez raison. Hein. Il y a de la ça sera jamais le Pérou, hein, si je puis dire. Mais c'est des solutions qui sont utilisées dans certains pays en développement. En France, difficile à faire pour des raisons juridiques et aussi la politique d'EDF.
Moi, ce qui me gêne aussi, c'est la centralisation à outrance de l'énergie, parce que on peut faire des mini productions, un méthaniseur, des capteurs solaires. Et puis EDF, quand vous parlez de l'hydraulique, est gagnant parce que c'est le propriétaire qui entretient l'hydraulique, qui entretient et qui achète le solaire. Donc EDF n'a rien à débourser, il n'a pas de centrale à construire quand le particulier met une production d'énergie. Et on pourrait, chaque individu devrait se responsabiliser, utiliser du bois quand c'est possible, du fioul quand c'est nécessaire, etc., multiplier les approvisionnements d'énergie. Et pourquoi toujours centraliser?
Bon, il faut de toute façon assurer un réseau électrique qui permet en toute saison, si je puis dire en toutes circonstances, de passer les points de consommation. Donc il faut qu'il y ait une autorité centrale pour faire ça. Alors, ça peut être en même temps une autorité qui produit l'électricité, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays, une autorité qui a la gestion du réseau électrique. Bon. Mais de toute façon, vous avez besoin d'un minimum de centralisation pour l'électricité, hein, je parle. Bon. Donc. Alors, les scénarios, je l'ai dit, les scénarios pour le futur, c'est des scénarios à trois acteurs. Hein. Un central, parce que il faut faire les pointes. Deuxièmement, les propriétaires eux-mêmes, je veux dire les particuliers, et puis des coopératives, hein, ce qui implique une décentralisation. Mais néanmoins, vous ne pourrez pas ne pas passer par un système central pour le réseau électrique et assurer le passage des pointes. Bon. Alors, vous dites, oui, EDF... c'est pas eux qui payent quand vous avez des éoliennes, etc. Mais c'est vous qui payez. C'est le consommateur qui paye avec la taxe, ce que s'appelle la CSPE, Contribution sociale pour l'électricité, donc qui paye en particulier, mais c'est faible, pour, je dirais, aider les ménages pauvres à se chauffer, prendre l'électricité, etc. Et aussi le surcoût du solaire et de l'éolien. Et il y a une ardoise de 1,5 milliard à 2 milliards par an qu'a EDF qui répercute sur les consommateurs. Donc c'est vous qui payez. Enfin, c'est nous qui payons. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Bonsoir. Premier constat, 20 personnes à cette soirée. Merci à Mendes France d'organiser une soirée là-dessus. C'est quand même... Moi, je me demande comment il faut faire pour que des personnes qui sont toutes consommatrices d'énergie, sous quelque forme que ce soit, ça peut être musculaire, électrique, etc., soient pas plus intéressées par ce sujet-là. Ben, c'est parce qu'on a de l'électricité, qu'on paye pas très cher probablement, et que tant qu'on en a, enfin, de l'électricité, et pas que l'électricité, mais du carburant, même si... Voilà. Préambule, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution 100% positive concernant une filière énergétique. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Sur le nucléaire, en fait, vous avez dit grosso modo, j'interprète un peu, mais que depuis 40 ans, il y a un immense camion qui a été construit, qui roule, mais qui n'a pas de frein. Ce sont les centrales nucléaires qui produisent des déchets radioactifs et on ne sait pas quoi en faire. Les matériaux actuellement garantissent plus ou moins à base de verre de stocker des déchets radioactifs pendant 100 ans, alors qu'il y a des déchets qui sont radioactifs pendant des milliers d'années. Dans le dessin que vous mettiez à la fin sur l'acceptable, pour moi, ce n'est pas acceptable. Et dans le titre de votre bouquin, quelles énergies pour nos enfants, ben, il y aurait aussi en sous-titre, il y aurait peut-être un chapitre là-dessus, mais quels déchets pour nos enfants en 2050. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment, je trouve, malhonnête dans le long terme. Et malheureusement, comme on a des présidents qui sont élus pour 5 ans, 10 ans, s'ils font des discours qui donnent envie de retourner voter pour eux. Vous avez parlé d'électricité en France, qui est deux fois moins chère qu'ailleurs. Mais il faut un peu nuancer. D'abord, rappeler qu'EDF a une dette de 35 milliards à peu près. Je n'ai pas les chiffres. Combien ? 80 milliards. À droite, les enchères, si vous voulez. 80 milliards. Alors, bon, moi j'étais à 35. Donc, mais quand même, il faut se poser la question. Est-ce que c'est une filière si positive, si... Alors, en plus, on prend ça comme une carte de visite pour aller vendre à l'étranger. Et c'est pour ça que EDF investit 15 milliards dans Hinkley Point en Angleterre, alors qu'il y a des gens à EDF, dont le directeur financier, qui a démissionné il y a 2 ans. Donc, Areva, bah, c'est de l'ordre de plusieurs milliards aussi de dettes. Hein. Donc, quand vous dites l'électricité est deux fois moins chère qu'ailleurs, je dis quand même qu'en Allemagne, le kilowatt est plus cher, mais ils n'ont une facture moyenne que de 30% supérieure à celle des Français. Pourquoi ? Parce qu'ils consomment moins d'électricité. Parce que les bâtiments sont mieux isolés, ils ont fait ce choix-là, de mieux isoler. Et que, ils n'ont pas des grille-pains dans leur maison. Et la France est le premier pays dans le monde avec un système de chauffage essentiellement électrique, qui est sûrement quelque chose qui est complètement aberrant et qui pousse à produire de l'électricité pour fournir ces grille-pains. Et comme les grille-pains ne fonctionnent pas en été, on incite les gens à installer des clims pour continuer de faire tourner les centrales nucléaires. Je ne suis pas très gentil, mais j'ai envie de rappeler quelques trucs comme ça. Quant à la transparence, eh ben moi, je n'ai pas très confiance dans les infos qu'on a. Il y a 15 jours, à France Inter, à 16h, au Flash Info, j'apprends qu'il y a eu un nuage radioactif qui a circulé sur la France en septembre et octobre. J'apprends ça à la mi-novembre. Je n'aurais pas ramassé les champignons que j'avais sur mon terrain. Oui, on peut faire la grimace, mais les champignons absorbent beaucoup la radioactivité. Pourquoi on a l'info, hein, à 2 mois après, un nuage radioactif qui viendrait de Russie ? Bon. Donc, la confiance. Alors, je trouve quand même, je vous ai déjà écouté à 2 conférences il y a 2 ans et 4 ans, vous êtes quand même un peu plus critique sur le nucléaire, et je vous félicite. Là où il faut que vous améliorez les premières diapos, et ce n'est pas par hasard si je suis intervenu, c'est que vous parlez de CO2, et moi j'insiste pour parler d'équivalent CO2. Et il y a eu dans cette salle un gars qui fait partie du GIEC qui a dit « J'ai l'impression que les pro-nucléaires ont fait du lobbying pour parler de CO2, de dégagement de CO2, pour mettre en valeur la filière nucléaire qui dégage peu de CO2. Il faudrait quand même compter le poids de béton qu'il a fallu pour faire les centrales et qui consomme énormément de béton, qui dégage beaucoup de CO2. Et puis je vais finir par un autre aspect. Vous n'avez toujours pas parlé de l'association Negawatt, mais ça ne m'étonne pas trop. Mais tant mieux, mais ça c'est une bonne nouvelle. Negawatt, 3W, Negawatt, qui a 3 étapes proposées. D'abord la sobriété, après l'efficacité. Eh bien, allez acheter le bouquin à Véronique sur Negawatt, le scénario Megawatt, qui rentre pas spécialement dans le lard du nucléaire, mais qui dit il faut quand même envisager autre chose que l'orientation actuelle, française en tout cas. Et il y a 3 étapes. Sobriété d'abord, efficacité deuxièmement, et troisièmement, utiliser des énergies renouvelables. Il ne faut pas nous faire croire qu'on va substituer les énergies fossiles et nucléaires par que du renouvelable. Ce n'est pas possible. Et la première question à se poser, c'est où est-ce qu'on peut consommer moins d'énergie ? Moi, j'entends quelques personnes qui prennent l'avion de temps en temps le week-end pour aller à Marrakech. Elles ont les moyens de se le payer, mais leur bilan équivalent carbone, eh ben, il n'est pas souhaitable pour l'ensemble de la planète. Mais voilà, après, ça se discute. Mais alors, quant à la... Vous avez parlé de transition ou de rupture technique, scientifique. Moi, j'en rajouterais une dimension, c'est la... la transition et la rupture psychologique. C'est d'accepter de consommer moins ou de vivre de la même manière. Et moi, je vous donne un exemple. Quand vous dites, ah, mais les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, c'est intermittent. Eh bien, ouais, mais quand mon panier de linge est propre et sale, je peux attendre qu'il y ait du vent ou que les panneaux solaires fournissent de l'électricité pour mettre en route la machine à laver. Je ne suis pas obligé de le faire exactement le jour où je l'ai programmé sur mon agenda. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres qui pourraient être comme ça. Quant au déplacement, ben, le covoiturage se développe, heureusement. Mais moi, je crains. Parce que pendant la COP23, Tesla a annoncé qu'ils ont présenté leur premier camion électrique. D'accord ? Une semaine après, un constructeur a présenté un bus électrique. Moi, ce que je crains, c'est que les véhicules électriques, surtout voitures, éventuellement camions et vélos, se développent tellement que ça soit une justification pour augmenter le gros business de l'industrie nucléaire en disant, mais attendez, vous voulez rouler avec voiture électrique, vous l'avez payé cher, elle est subventionnée, etc. Ben, il faut qu'on construise des centrales. Et hop, on ne refourgue ça avec les 300 ingénieurs du corps des mines que vous connaissez sûrement, que vous croisez peut-être dans les bureaux, qui sont très bien placés dans les ministères et dans les grosses sociétés pour orienter le système là-dessus. Parce que malheureusement, il n'y a pas de débat démocratique sur les choix énergétiques. Merci.
Sur les déchets, je dis c'est le point, c'est le talon d'Achille ou l'épine dans le talon d'Achille du nucléaire, du nucléaire, hein, c'est clair. Alors moi, ce que j'entends sur ou je lis dans la littérature sur les matériaux, bah, le verre, etc., pour stocker des déchets qui doivent durer plusieurs centaines de milliers d'années, c'est qu'il y a une relative stabilité, relative, tout ça, je suis bien d'accord. Ça, c'est hein, l'épine dans le pied, le talon du nucléaire. Hein. Bon, ça c'est clair. Sur les solutions, le renouvelable, c'est vrai qu'il faut des garanties pour assurer pendant un certain temps, qui peut durer plusieurs jours, l'alimentation électrique. Parce que pas simplement le problème de votre machine à laver, mais s'il n'y a pas d'électricité dans un hôpital, ben, il y a des groupes électrogènes. Bon, d'accord, mais vous retombez sur le problème des fossiles. Idem sur le transport électrique. Alors, EDF est endetté, je ne sais pas si c'est 80 milliards. Bon, c'est vrai. La SNCF l'est aussi. Hein. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément un exemple. Hein. D'accord. Mais beaucoup de sociétés de services publics sont endettées parce qu'on assure en France, on veut assurer des services publics de transport, d'électricité, etc. Bon, hein, et qu'on paye, on paye moins cher le courant électrique que nos voisins européens. Le chemin de fer, je ne suis pas certain, parce que le TGV est quand même relativement cher. Hein. Bon. Le problème de l'endettement des grandes sociétés publiques est un fait majeur en France, mais pour s'équiper, ben, il a fallu effectivement investir. Mais les centrales nucléaires actuelles sont amorties, donc elles produisent du courant électrique. Pas gratuitement, certainement pas, parce qu'il y a de toute façon le problème de l'entretien, le problème de l'augmentation de la sécurité, hein, qui va augmenter de toute façon aussi le prix du kilowattheure, mais elles sont amorties. Je ne dis pas que c'est la solution ad vitam aeternam, et je suis d'accord pour baisser la part du nucléaire pour les raisons que j'ai dites, et essayer de faire des paris sur du nucléaire moins capitalistique et probablement plus sûr, mais ce n'est pas pour demain matin. Ce n'est pas pour demain matin. Il n'y a pas de solution idéale, vous le dites vous-même. Il n'y a pas de solution idéale.
Oui, bonjour. Merci pour votre conférence. Moi, je ne vais pas rentrer dans des conceptions politiques ou éthiques. Je vais être assez simple. Sur une question technique, pour ma culture générale, ça fait écho à la question sur la centralisation de l'électricité dont on parlait tout à l'heure. Sur l'acheminement de l'électricité, peut-être on l'a évoqué, je ne me rappelle plus, mais il ne me semble pas, sinon je l'aurais noté, je pense. L'acheminement de l'électricité, comment ça marche et comment étaient nos câbles avant? Comment le sont-ils aujourd'hui? Et on n'a toujours pas d'autres moyens que les câbles? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de déperditions dans les câbles? Sur l'aspect technique, et sinon, c'est ça.
L'acheminement du courant électrique, il est assuré par une filiale de l'EDF, hein, à haute tension et moyenne tension. Bah, là, ce sont des câbles électriques, hein, donc je dirais, il n'y a pas de miracle. On pensait il y a Alors, on perd 10 à 15% du courant électrique dans le transport, hein, à peu près, au moins 15%, hein, bah, par effet Joule. Bon. Alors, on imaginait, il y a 10, 15, 20 ans, maintenant, on n'en parle plus guère, qu'on a ce qu'on appelle des supraconducteurs, c'est-à-dire des métaux, disons, ou des alliages, hein, qui transmettent le courant sans perte par effet Joule, mais il faut le mettre à très basse température. Et donc, vous perdez, là, pour assurer le refroidissement de cette tuyauterie, si je puis dire, vous perdez en énergie. Donc là, cette solution n'a pas tenu la route. Et là, le problème des câbles électriques est essentiel. Et il faut le faire avec une interconnexion à l'échelle européenne qui est en cours, qui est faite partiellement, mais qui est en cours, pour assurer, ben, si dans un pays il n'y a pas de possibilité de fourniture d'électricité parce qu'il y a une pointe de froid, mais qu'à côté il n'y en a pas, hein, et d'importer du courant. Ce que savent faire tous les électriciens, EDF ou pas. Hein. Donc là, techniquement, il n'y a pas véritablement eu de progrès depuis 20 ou 30 ans, sauf sur l'interconnexion à l'échelle européenne.
Oui, je voudrais revenir sur le nucléaire, justement, pour au niveau de la sécurité, on a balayé un petit peu. Moi, je voudrais parler de la sécurité économique, déjà, aussi. Il va falloir refaire les centrales, le parc est vieillissant, il va falloir les revoir au niveau sécurité. Vous savez très bien ce que les matériaux ont beaucoup vieilli. Ils ont en moyenne, les centrales en France, 30 ou 35 ans, ou une quarantaine d'années, voire. Donc ça va avoir un coût économique, moi, à mon sens, colossal. Ça va nous priver de l'investissement en grande partie vers les énergies renouvelables, justement. Voilà, c'est pour moi un problème au niveau de la sécurité, au niveau du danger nucléaire, mais c'est en grande partie un danger au niveau économique également.
Alors, du point de vue... Du point de vue d'investissement, du point de vue économique, bon, les centrales nucléaires, leur durée de vie est de 40 ans actuellement, mais peuvent être prolongées, si je puis dire, si les conditions de sécurité le permettent, ce qui veut dire investir pour améliorer la sécurité, ce que est obligé de faire EDF actuellement. Bon. Mais de toute façon, si vous passez du nucléaire, il faut soit des centrales solaires, soit des centrales, si vous faites du renouvelable, hein, soit des centrales éoliennes, et le solaire est presque aussi capitalistique que le nucléaire. Le nucléaire est très capitalistique. Sans parler évidemment de l'EPR de Flamanville, l'EPR un peu classique actuel, il est capitalistique, c'est-à-dire que ça coûte cher en capital, que vous amortissez pendant 40 ans, mais pour le solaire, c'est pareil. L'éolien, un peu moins. Il n'y a pas de miracle économique. Il n'y a pas de miracle économique.
Le solaire atteint des rendements aujourd'hui qui est tout à fait aussi rentable, voire plus rentable que le prix de l'électricité nucléaire aujourd'hui. Donc, vu que le prix de l'électricité nucléaire va s'envoler dans les années à venir, moi, à très court terme, ça me paraît évident que ces énergies-là renouvelables seront beaucoup plus intéressantes économiquement parlant, simplement.
Les scénarios que j'ai cités et qui ont été actualisés récemment par l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas particulièrement pro-nucléaire. Donc les scénarios sur le coût des renouvelables, sur le coût du fossile, sur le coût du nucléaire, n'envisagent pas, sauf exception de pays très ensoleillés, que le solaire photovoltaïque puisse être rentable, sauf exception, je l'ai dit, avant 10 ou 20 ans. Par ailleurs, si vous comparez l'éolien et le solaire, là, il y a ce qu'on appelle la capacité ou la disponibilité. La disponibilité d'une centrale solaire, c'est 15 à 17%. Ça veut dire que votre centrale solaire, mettons une puissance de 1 MW hein, pour fixer les choses, ne va produire de l'électricité à 1 MW que pendant 17 à 18% de son temps. Et donc, il ne faut pas comparer puissance à puissance. En revanche, l'éolien, c'est en France pas loin de 25%. Donc, c'est plus rentable de toute façon que le solaire. L'éolien est plus rentable que le solaire. Alors pourquoi ça ne se développe pas en France? Ben parce qu'il y a, je dirais, des quantités de procès devant le tribunal administratif, enfin les tribunaux administratifs, hein, des voisins de l'éolienne qui disent mais ça va, ça fait du bruit. Enfin, là, il y a des réglementations, mais ça va abîmer la vue qu'on a sur la mer, la vue sur le château de machin, etc. Et donc, avec l'habitude procédurière des Français, ça dure 5 à 7 ans pour pouvoir construire un parc d'éoliennes. Hein. Et les délais sont inférieurs pour le soleil, parce que ça se voit beaucoup moins, hein. Vous avez moins de prise au sol, mais c'est moins rentable. C'est moins rentable. Et donc, au plan international, les scénarios ne prévoient pas, sauf exception, pays comme les pays du Golfe ou la Californie, que le soleil soit rentable avant 10 à 15 ans. Par rapport au nucléaire, par rapport aux barrages, c'est-à-dire hydroélectrique, par rapport au charbon, évidemment.
Quand vous dites rentable, vous dites en termes de remplacement de production d'énergie, vous dites rentable que les investissements vont être votre amorti.
Quand vous dites on va produire, mettons, avec du solaire à 70 euros le mégawattheure, hein, ce coût de production tient compte de l'amortissement du capital, de l'entretien. Dans le cas du solaire, il n'y a pas évidemment de combustible. Hein, donc c'est comme ça, et idem pour l'éolien. Hein, vous calculez avec l'amortissement du capital et les frais d'entretien. C'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour le solaire, c'est vrai pour les combustibles, mettons le charbon, etc. C'est comme ça qu'on compare.
Donc quand vous dites rentable, c'est bien en termes financiers. C'est bien ça.
Financiers.
Ouais.
Donc, pour le consommateur.
Ouais, j'ai une question à vous poser, mais avant de poser ma question, je vais ouvrir une parenthèse qui fait quoi ce que vous venez de dire, la question de la rentabilité. Vous avez dit tout à l'heure que l'endettement public était un problème.
Oui.
Mais le problème, c'est que quand une entreprise privée achète, je ne sais pas moi, une chaudière, on appelle ça de l'investissement. Mais quand c'est l'État qui le fait, on dit c'est de l'endettement. C'est problématique parce que quand l'État achète quelque chose ou investit, c'est aussi de l'investissement. Voilà. Et donc l'endettement, en fait, ce n'est peut-être finalement que de l'investissement. Je vais fermer ma parenthèse.
C'est pas moi qui ai parlé d'endettement. Hein.
Oui. Et si, tout à l'heure, vous avez dit l'endettement public, vous en avez parlé.
Oui, oui, oui.
Vous avez dit c'est un problème. Donc,
Non, mais c'est monsieur qui a proposé la question de l'endettement. Ouais. Bon. C'est pas moi.
Alors, ma question, est-ce que vous avez des informations à nous donner sur la technique ondulatoire dans la mer qui utilise la marée?
J'ai été président de l'IFREMER, donc je connais un peu ces questions-là. Usine marée motrice très compétitive, hein, c'est-à-dire vous utilisez la marée, l'amplitude de marée. Bon, tout le monde connaît, hein. On fait rentrer dans un estuaire la marée, hein, à travers des vannes, on ferme les vannes, hein, ça monte, hop, on redescend, on ouvre les vannes. Bon. Mais malheureusement, c'est rentable sur l'estuaire de la Rance, hein, où il y a une amplitude de marée de 6 à 7 mètres à peu près par jour. Et c'est un site exceptionnel. Exceptionnel. Il y en a deux ou trois comme ça dans le monde, un au Canada, un autre en Corée. Bon. Et là, en dessous de ce niveau-là, c'est pas tellement rentable. Même si c'était une très vieille technique. Hein, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les moulins à marée pour faire, je sais pas quoi, de la meunerie, etc. Mais on ne produisait pas d'électricité. Donc, usine marée motrice, exceptionnellement rentable. Vous pouvez avoir des systèmes avec des flotteurs, hein, et puis en fonction des vagues, hein, vous faites marcher une pompe, etc. Bon, ça, je dirais, c'est je sais pas, certains d'entre vous vous souvenez peut-être des fameux dessins de Dubout, c'est des trucs à la Dubout, quoi. Hein. Donc ça, avec en plus tout système mis en mer, hein, il y a la corrosion, il y a le risque des tempêtes. Bon, la seule chose qui est probablement valable et qui est expérimentée en France dans la Manche, c'est ce qu'on appelle les hydroliennes. Hein. Les hydroliennes, bon, c'est des turbines. Hein, ce n'est pas celle dont vous parliez, mais des grosses turbines que vous mettez, c'est l'équivalent d'une éolienne que vous mettez, pas au fond de la mer, mais dans un courant marin, et ça fait tourner l'hélice et produit l'électricité. C'est l'équivalent d'une éolienne. Il faut des sites où vous avez des courants marins réguliers et assez puissants. Il y en a un qu'on appelle le rat Blanchard, hein, qui va de la pointe, pas de la règle, mais nord de la Manche, là, vers le large, hein, qui est un site exceptionnel, et vous avez une vitesse, je ne sais pas combien c'est, si c'est 5-6 mètres par seconde, mais qui est assez exceptionnel. Là, ils sont en train de l'expérimenter, c'est peut-être rentable. Là, si vous voulez, ce sont des situations exceptionnelles du point de vue géographique. Avec toujours les inconvénients qu'on a constatés sur les îles de la marée motrice de la Manche, mais de la Rance. Mais ça, on le savait, c'est la corrosion en mer de tout système qui est plongé. Quoi. Bon. L'autre possibilité, c'est d'exploiter la différence de température entre la surface et le fond de la mer, parce que vous avez en zone tropicale une quinzaine de degrés, donc vous faites marcher une machine thermique, un rendement de Carnot, etc. Il faut là aussi des conditions exceptionnelles. Ça marche dans les zones tropicales, avec aussi un risque dans les zones tropicales, c'est que vous avez des cyclones, etc., et qu'en deux coups de cuillère à peau, votre centrale, elle peut être fichue en l'air. On a expérimenté ça avant la Seconde Guerre mondiale.
Mais il n'y a pas d'enchère sur une technologie, c'est-à-dire alternative à l'hydrolienne en fond, mais quelque chose qui...
Oui, c'est ça. Bon, les Anglais, ils font ça aussi. Hein. C'est une espèce de boudin qui flotte, qui flotte et qui fait marcher... Non, mais ça, c'est un peu... Comment ? Oui, mais vous avez... Je réponds positivement, hydrolienne, sur des grands courants marins, marée motrice, ça marche, mais il faut des sites, hein, qui s'y prêtent.
Une question.
Comment ?
Ça marche que dans certaines régions.
Oui, parce qu'il faut... Il faut un courant marin régulier, avec une bonne vitesse, pour que ça soit rentable, toujours le même problème. Et puis, idem pour les usines marée motrice. Il faut une grande amplitude de marée.
Ah oui, le paramètre fondamental, c'est ça. Donc, on ne peut pas essayer, imagine. D'accord.
Ouais. Il faut un grand débit d'eau. Un grand débit d'eau.
On va prendre une dernière question, parce que l'heure avance, puis après, pour que vous ayez le temps de regarder les livres quand même, et éventuellement de faire quelques dédicaces. Il y en avait une là, pardon.
Bonjour monsieur, merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Ce que j'en ai compris, c'est que la problématique de l'énergie est importante dans le monde qui va venir, un monde qui va évoluer. Mais en France, on peut se payer le luxe, entre guillemets, je pense, de savoir si on va mettre une hydrolienne ou mettre un panneau solaire, mais tous les pays qui vont devoir se développer, on va leur dire quoi, eux ? Bah, mettez des panneaux solaires, vous ne travaillerez pas la nuit, et puis vous pourrez recharger vos voitures le jour. Enfin, à part les productions conventionnelles qu'on a sur le nucléaire et tout ce qui est autour des centrales à énergie électrique thermique, d'origine thermique, de votre point de vue, ce serait quoi la solution pour produire l'énergie en continu et en suivant cette idée de faire du renouvelable, quoi. C'est-à-dire que...
J'ai mis ce défi, là, je les ai classés par ordre d'importance. La question que vous posez, c'est pour les pays en développement, quelle énergie ? Bon. Je pense que c'est une des questions fondamentales, parce que c'est leur sous-développement, notamment énergétique, c'est un obstacle pour une vie décente, hein. C'est des tensions internationales, locales, entre pays voisins, par non-développement. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Parce qu'on peut leur dire, mettez des panneaux solaires, etc. Mais d'abord, ça coûte aussi, ça coûte cher. Il faut... Alors, au niveau d'un village, vous pouvez effectivement, au Niger, dans le Sahel, avoir... vous n'avez pas besoin à ce moment-là de réseau électrique si vous avez des panneaux solaires. Et donc, vous alimentez en électricité de base un village de 2-3 000 habitants, avoir un peu d'électricité à l'école, etc. Mais je dirais, dans les grandes villes ou les villes moyennes d'Afrique, il faut soit produire localement avec des centrales à gaz, on retombe sur le problème du fossile, ou alors tirer des câbles électriques de plusieurs milliers de kilomètres pour aller chercher l'électricité qui est produite sur les grands barrages, sur le Congo ou sur le Zambèze ou le Nil. Hein. Et ça coûte cher. J'ai pas de réponse, puis je ne suis pas un expert dans ces domaines-là, mais c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, vous avez raison. un vrai sujet. Et ça sera une source de tension internationale, parce que moindre développement, donc migration, mouvement migratoire, etc., avec une amplitude qui n'aura rien à voir avec celle qu'on connaît actuellement, hein, avec les problèmes du Moyen-Orient. Moi, j'ai pas de réponse. Pour ça, je le mets en numéro un, ça. Et ça voudra dire probablement qu'il faudra qu'ils utilisent pendant un certain temps des énergies fossiles, du gaz naturel, notamment parce que là, avec du gaz naturel, vous pouvez mettre des petites centrales avec des turbines à gaz, parce que beaucoup de ces pays ont des ressources énergétiques, qui sont utilisées d'ailleurs par les pays occidentaux, enfin développés.
Voilà. Bon, une toute dernière, oui. Quand même. Non. Non, mais là, je vais... Parce qu'il faut bien une fin, je suis désolée.
Ok. Déjà, merci bien pour votre conférence. Je trouve que c'était très pertinent. Je rebondis sur la question du monsieur qui m'a précédé, c'est-à-dire les énergies fossiles ou alors les énergies qu'on a utilisées jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous appelez des énergies non carbonées, sont pour moi des énergies qui ont une base un peu conflictuelle. C'est-à-dire, beaucoup de guerres aujourd'hui sont liés essentiellement au problème de l'énergie.
Oui.
Donc je dis, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait des perspectives, dans les pays développés, aussi peu optimistes. Je crois que ce serait vraiment bien de mettre vraiment à fond la caisse, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi, vraiment à fond la caisse, les moyens sur tout ce qui est énergie renouvelable, parce que je pense que si ce n'est pas fait, sur le long terme, ce sera un gros problème pour les pays en voie de développement qui voudrait se développer. Parce que nous, j'ai envie de dire, moi je suis originaire d'un pays sous-développé, il faut le dire, et moi dans mon pays, on veut avoir accès aux mêmes, j'ai envie de dire, capacités en énergie qu'ici. Sauf que nous, on n'aura plus accès à nos énergies, parce que nos énergies, elles servent, en l'occurrence, aux pays développés. Oui, oui. Je parle de l'uranium, je parle du pétrole, je parle de tout ça. Donc je dis, ce serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose de pertinent comme les énergies renouvelables, qui sont suffisamment équitablement réparties à la surface du monde. J'entends par là le soleil, également réparti partout. Le vent, on peut l'utiliser de la même façon partout. Donc pourquoi ne pas vraiment mettre le paquet là-dessus, de manière à permettre que tout le monde puisse avoir de façon équitable accès à l'énergie et donc accès au développement. Merci.
Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai cité le Maroc, qui est un pays à moitié développé, quoi, mais il fait un effort. Je pense que parmi les pays africains, c'est pas l'Afrique subsaharienne, le Maroc. Bon, c'est le pays qui fait le plus d'efforts pour développer les énergies renouvelables, notamment le solaire, un peu l'éolien sur la côte. Et bon, c'est un exemple à suivre. Alors, ils ont des capitaux, ils ont... Les banques marocaines, d'ailleurs, se développent beaucoup en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a des exemples. Il y a un contre-exemple, dans une certaine mesure, c'est l'Afrique du Sud, qui, elle, utilise du charbon à gogo pour ses centrales électriques. Mais il faut qu'ils sortent aussi du charbon. Le problème est un problème de capitaux. Je pense que c'est un problème de capitaux, donc de capacité des banques internationales. La Banque mondiale commence à le faire, mais elle ne le fait pas suffisamment, à prêter aux États pour qu'ils se développent, notamment sur les énergies renouvelables et solaires en particulier. Non, vous avez raison.
C'est des choix politiques chez nous aussi, il faut être clair. Le développement de l'éolien, ce n'est pas une question, je suis désolée.
Oui, mais allez-y, oui.
Mais le développement de toutes les énergies renouvelables, elles ont toujours été avortées parce qu'il y avait des lobbies, parce qu'on les a empêchées. Enfin, depuis 40 ans, j'entends parler de ça.
Non, mais vous avez raison.
Et aujourd'hui, les choix politiques, s'ils étaient vraiment faits chez nous, dans nos pays, je parle de la France, celle que je connais le plus, de dire on diminue la consommation, mais déjà dans les espaces publics. Déjà, mais ce serait énorme si on diminuait la consommation dans les espaces publics, dans les écoles. Chez les particuliers, si on contraignait, je dis bien le mot contraindre, à toute maison qui se construit de mettre un chauffe-eau solaire, parce que le soleil,
Absolument.
Pas 15%, vous disiez,
j'ai dit,
vous dire, j'ai un chauffe-eau solaire.
Oui, oui.
Depuis tous les... 9 mois sur 12, je me dis, je me douche avec le soleil.
Oui, oui, mais vous avez raison. Mais que ça, c'est, on le fait pas, ça. On le fait pas.
Mais que ce ne soit pas concret, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'il n'y ait pas plus d'encouragement, non, d'obligation. Même sur les constructions neuves, bon, on fait de la rénovation anti-perte de fuite d'air, etc. C'est très bien dans les anciens bâtis, mais dans les nouveaux, je trouve qu'il y a une frilosité effroyable. Mais nos politiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et c'est à chacun de les pousser et de bien voter et de faire en sorte de chacun économiser. Le monsieur le disait tout à l'heure, il avait quelque part raison. Comme on dit, on ne fait pas chauffer n'importe comment, on baisse ses lumières, chacun peut le faire. Mais c'est déprimant parce que depuis 25 ans qu'on sait qu'il faut avancer, mais on n'avance pas, on n'avance pas.
Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai une expérience personnelle. J'étais directeur général du CNRS dans les années 80. La France avait une avance dans le domaine du solaire. On construisait à Perpignan, près de Perpignan, une centrale solaire avec une tour. On envoie le soleil sur le haut de la tour. Ça fait marcher une turbine, etc. C'est pas comme les Marocains, mais pareil. Avec le soutien d'EDF, on a fini de construire le CNRS... devait développer l'affaire. Une fois la tour terminée, l'EDF a mis la clé sous le paillasson et dit maintenant, la crise pétrolière s'est passée et on fait autre chose. Bon, hein, c'est là, on est resté avec le truc sur le dos. Bon, et, ah oui, bon, hein, et donc, j'étais... Deuxièmement, la politique de subvention des énergies renouvelables. La Cour des comptes a plusieurs fois, à plusieurs reprises, attiré l'attention des pouvoirs publics sur ces politiques qui est utile de subventionner par rachat du courant électrique. Mais ce que vous avez dit sur les chauffe-eau solaires est totalement exact. Ça n'est pas ou pratiquement pas aidé, même pas du tout par l'État, alors que vous économisez de l'électricité ou du gaz pour faire chauffer votre eau, alors que c'est très simple et techniquement, c'est au point. Bon, et donc là et on préfère effectivement l'électricité, qu'elle soit nucléaire ou pas, ou solaire, ça c'est plus prestigieux. C'est vrai. Et sur les éclairages la nuit, il n'y a pas besoin d'éclairer la nuit tous les immeubles du quartier de la Défense, les immeubles de bureaux. Je n'ai pas été voir à Poitiers, mais c'est vrai. Donc là, ça, c'est une question de politique publique des municipalités, aussi à travers les entreprises, pour dire on peut économiser des kilowattheures plus que des kilowattheures. Vous avez raison. Je suis d'accord. Il y a des communes. Alors maintenant, dans certaines, je ne sais pas ce qu'il y a à Poitiers, mais dans les communes, on coupe l'éclairage public à 10 ou 11 heures du soir. Alors les gens peuvent se casser la figure dans un trou. Mais donc, mais c'est vrai qu'à la limite, c'est peut-être pas nécessité d'éclairer à gogo toutes les rues d'une ville toute la nuit. Je suis d'accord.
La réglementation thermique française évolue beaucoup. Et qu'on annonce d'ici 2018 une obligation d'avoir un moyen de chauffage qui soit lié au renouvelable. Donc ce que vous dites, la remarque que vous avez faite sur le chauffe-eau solaire, c'est quelque chose qui va arriver dans les années à venir et que les professionnels vont avoir à gérer dans la construction du bâti.
Non, mais restons optimistes quand même, restons optimistes.
Oui, voilà, c'est qu'il faut
non,
pas...
Non, mais faut pas. Faut pas... Non, mais restons.
Le problème du réchauffement climatique, enfin, c'est clair.
La réglementation est quand même extrêmement stricte.
Sur ce qu'il faut faire.
Très, très serré.
Bon.
Voilà, on va conclure. Merci pour cet échange très intéressant. Voilà, et puis merci encore à M. Papon et n'hésitez pas à consulter les ouvrages.